Donc on va commencer afin de ne pas trop prendre de retard sur l'après-midi. Et on va entamer nos débats avec Florian Coste, éducateur sportif, qui va nous parler de l'aquaphobie.
Donc bonjour à tous. Donc alors je vais me présenter succinctement. Donc Florian Coste, maître nageur à la ville de Poitiers. Et donc je suis entre guillemets l'éducateur qui pratique et qui fait pratiquer l'aquaphobie à toutes les personnes qui souhaitent passer le pas de la piscine pour, on va dire, s'améliorer ou tenter de s'améliorer dans un milieu fluide. Donc, l'aquaphobie, il y a déjà différents stades d'aquaphobes. On a les personnes qui sont déjà allées dans l'eau, qui ont appris à nager, mais qui, suite à un traumatisme, ne peuvent plus aller à l'eau, étant donné qu'ils ont vraiment très peur. Donc là, ça peut aller de la personne qui arrive à quelques mètres de l'eau et qui commence déjà à stresser, à avoir des sueurs, et ainsi de suite. Et il y a la personne qui, par un manque de pratique, devient... on va dire un peu hésitante et du coup ne souhaite plus retourner par exemple là où elle n'a pas pied. Voilà. Donc moi mon métier consiste donc à prendre toutes ces personnes, les personnes d'âge différentes et de les amener là où déjà elles le souhaitent. Pour certaines ce sera juste pouvoir aller jouer dans l'eau, pour d'autres ce sera nager, se détendre. Et donc, tous ensemble, on essaie d'avancer avec ou sans peine des fois. Mais en général, c'est une activité qui est assez enrichissante pour les autres et pour moi aussi, puisque pour réussir à passer une phobie, il faut quand même passer le stade de la confiance avec la personne en qui... on essaie d'apprendre et du coup cette personne nous fait confiance lorsqu'on lui demande de faire telle ou telle chose qui peut être mettre juste le corps dans l'eau ou mettre la tête dans l'eau pour mon cas y en a pour qui ça va être beaucoup et du coup une fois que la personne fait confiance ce sera quand même beaucoup plus simple de lui faire faire tout un tas de choses qui lui paraissent absolument irréalisables avant de venir à la piscine. Donc, sur cette activité, le but premier, pour ma part, est d'acquérir la possibilité de se sauver elle-même. Donc, avant de savoir nager, pour moi, il est important que chaque personne puisse... elle tombe dans l'eau ou si, pour une raison X ou Y, j'allais dire, est dans l'eau, est capable de rejoindre un bord ou de se sauver. Donc pour cela, il n'y a pas forcément besoin de savoir nager. Il faut que la personne puisse respirer, donc s'allonger sur le dos, sur l'eau, et ensuite pouvoir... attendre si la personne ne sait pas nager ou nager jusqu'à un bord pour retrouver la terre. Ensuite, ces personnes souhaitent aussi venir pour, au-delà de se sauver elles-mêmes, donc comme je disais tout à l'heure, apprendre à nager. Et donc là, c'est un stade qui est quand même beaucoup plus compliqué pour certaines personnes puisque il y a certaines personnes qui ont déjà on va dire un âge avancé et pour lesquelles c'est quand même beaucoup plus dur puisque les repères qu'on a sur Terre ne sont pas du tout les mêmes que les repères qu'il y a dans l'eau. La sensation n'est pas du tout identique vu que il n'y a rien pour nous retenir. L'élément qui nous fait flotter, ce sont les poumons, et du coup, c'est vrai que sur Terre, les poumons, à part pour respirer, ne sont pas, on ne s'en sert pas plus que ça. Voilà. Donc, ensuite, sur l'activité, deux types souvent de personnes que l'on peut retrouver, ce sont soit les parents, jeunes parents, qui commencent à avoir des enfants, on va dire, allez, de 3 à 4 ans, qui, les enfants aiment l'eau en général, et les parents ne sont pas capables d'aller chercher leur enfant ou de profiter de cette activité avec leur enfant. Donc, en règle générale, elles viennent nous voir et souhaitent apprendre à nager en passant par de l'aquaphobie avant. Et deuxièmement, les personnes qu'on voit, entre 60 et 70% des cas, ce sont les grands-parents qui, dans leur jeunesse, n'ont pas forcément appris à nager ou ont eu des traumatismes, encore une fois, et pour qui, quand les petits-enfants viennent en vacances chez eux, ils ont une piscine ou ils veulent emmener leurs petits-enfants à la piscine, et du coup, ils sont un peu paniqués de s'occuper de leurs petits-enfants dans ces lieux-là. Donc, ils viennent me voir. On passe l'activité, on va dire, il nous faut environ une année pour que quelqu'un se débrouille. Donc l'activité, je vais essayer de décortiquer un peu la méthode entre guillemets que moi j'utilise. Donc les gens viennent à la piscine, approchent, rentrent dans l'eau ou non pour certains. Il y a des personnes qu'il faut déjà aller dans les douches pour commencer à s'occuper d'elles. Car rien que le fait d'avoir de l'eau sur le visage et sur la tête, les gens sont déjà en panique. Donc ces personnes-là, on les accompagne dès les sanitaires, dès les douches. Ensuite, on les amène dans l'eau. En général, on s'assoit sur le bord du bassin. Et c'est là que moi, personnellement, je commence à voir un petit peu les difficultés que je vais avoir, puisque certains vont continuer à me parler comme si de rien n'était. D'autres personnes vont se bloquer complètement. Et quand je leur demande de progresser dans l'eau et de rentrer, de s'immerger jusqu'à la taille, déjà, on a vraiment des blocages et du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, par la parole et par la confiance, comme je disais comme tout à l'heure, on peut réussir à faire abstraction de cette peur. Et pour le coup, en discutant, on discute, on continue à avancer. Souvent, je prends les gens par la main et on avance dans une pente douce en général. Et puis, les gens se rendent compte au bout d'un moment, je les stoppe et je leur dis, regardez, vous avez de l'eau à la taille, tout se passe bien. Et du coup, déjà, rien que le fait pour certaines personnes d'avoir de l'eau à la taille, c'est déjà une victoire. Donc, je dirais, c'est la première victoire qui va découler de toute la suite de l'apprentissage, vu que en arrivant à la piscine, ils étaient persuadés de ne pas réussir à rentrer dans l'eau. Et là, en fait, en quelques temps, ils réussissent à avoir déjà la moitié du corps. Donc ensuite, les grands paliers pour progresser dans une piscine, ça va être donc la perte des appuis plantaires, où là, il va falloir immerger le corps jusqu'aux épaules et par la suite remonter un petit peu les pieds afin que les personnes sentent que un corps humain, ça flotte. On a tous des poumons, donc une fois que nous avons inspiré, que ce soit une personne lambda, X ou Y, on va tous flotter. Donc il faut réussir à les convaincre que ils sont comme tout le monde et que il n'y a pas de raison qu'eux n'y arrivent pas. Donc, une fois que ce stade est passé, donc là, on est déjà entre une et cinq séances. Il va falloir commencer donc à s'allonger. Donc là, je leur explique qu'en fait, vu qu'ils sont sur un fluide, tout part de la tête. La simple orientation de la tête, que ce soit en avant, en arrière, à gauche ou à droite, va complètement diriger leur corps. Et du coup, rien qu'en faisant ça, qu'en bougeant juste la tête, ils vont guider tout leur corps pour s'allonger soit sur le ventre ou soit sur le dos. Donc là, c'est, je dirais, la plus grosse étape de la peur en général. C'est que les gens, dès l'instant qu'ils vont commencer à s'incliner soit vers le ventre ou soit sur le dos pour certaines personnes, cela dépend vraiment de chaque personne, et bien dans ces moments-là, les personnes ont à peu près toutes le même constat, c'est qu'elles disent « je vais tomber dans le vide ». Et là, du coup, c'est là où c'est un peu compliqué des fois de les comprendre, c'est que c'est une rotation qu'il se fait assez lentement. Et dans leur tête, eh bien, elles ont vraiment l'impression de tomber dans le vide et de limite se retourner qu'en une fraction de seconde, elles vont avoir la tête en bas et les pieds en haut, quoi. Donc c'est là où le psychologique rentre vraiment pour les accompagner doucement, les maintenir, les orienter plus ou moins dans l'eau avec différents matériels, hein, bien sûr. Et à force de paroles et de convictions, en général, elles arrivent tout à fait à vaincre leur peur. Voilà, cela se fait après entre 10 et 15 séances. En général, les gens s'allongent sur le ventre et sur le dos et en général commencent à prendre un petit peu de plaisir. Et c'est là où quand les gens me disent « Ah, c'est agréable, en fait, cette sensation de flotter », où moi, quelque part, j'ai un peu gagné dans le sens où je me dis « Ah, ben ça y est, voilà, les gens venaient avec une appréhension, repartaient des premiers cours avec des fois les larmes aux yeux, avec le corps complètement fatigué à force de crispation. Et du coup, au bout de quelques séances, eh ben, « Ah, ben en fait, c'est agréable ». Et du coup, c'est là où la phobie disparaît et où l'apprentissage va commencer. Et par contre, il faut tout le temps faire attention, car la phobie n'est jamais complètement partie. Et il ne faut pas que les gens prennent non plus trop de confiance trop vite, car le moindre petit déclic... mettre la tête dans l'eau alors qu'elle n'avait pas prévu, ou boire une tasse, ou que l'eau rentre un peu dans le nez, peut les faire régresser. Et pour le coup, on va recommencer à reparler de la phobie. Il va falloir retourner là où elles ont pied et faire une machine arrière qui est compliquée derrière. Puisque les gens veulent toujours, comme tout le monde, apprendre rapidement et ne comprennent pas pourquoi il y a 15 jours elles arrivaient à faire un allongement et que 2 semaines après elles ne peuvent plus. Donc voilà pour ce qui est de l'aquaphobie et je dirais de la progression des aquaphobes qui souhaitent apprendre à vaincre une peur, donc là l'aquaphobie, mais comme j'en discutais tout à l'heure, pour toutes les phobies je pense que c'est un peu pareil. Le principal est d'avoir confiance en l'intervenant et que cet échange permet vraiment de faire abstraction de la phobie et d'avancer tout simemplement dans l'aquaphobie pour ma part, mais pour les autres phobies, je pense que c'est pareil. Voilà pour ce qui est de l'aquaphobie.
Merci. Alors rapidement, avant de prendre les questions, peut-être nous dire si vous avez une idée du nombre de personnes, à peu près de proportion de la population que ça concerne, cette aquaphobie. Et puis si vous, dans votre expérience, si vous arrivez de tomber sur des cas incurables, j'allais dire insolubles, mais c'est inapproprié.
Alors, au niveau du pourcentage de la population, c'est assez difficile, car souvent, c'est des personnes qui n'en parlent pas. Quand on a une phobie, c'est quelque chose qu'on ne parle pas trop, qu'on ne veut pas forcément dévoiler à tout le monde. Donc, il est difficile quand même de connaître un pourcentage. Par contre, comme je disais tout à l'heure, la piscine, la natation... devient vraiment un sport et une activité qui est vraiment démocratisée, vu que maintenant, quasi tous les enfants viennent à l'école, avec l'école à la piscine. Donc du coup, par ce biais-là, eh bien, les parents et les grands-parents et tous les aquaphobes ont forcément accès à la piscine et entendent forcément parler de la piscine ou enfin de l'eau en général. Et du coup, on commence à avoir plus d'aquaphobes. Donc moi, par exemple, j'ai un groupe de cette année de 8 personnes et en attente, j'en ai entre 15 et 20 qui appellent. Et là, nous ne prenons plus d'inscription vu que moi, en général, mon groupe me dure un an. Donc c'est vrai qu'il y a plus de demandes que de possibilités au sein de Poitiers, en tout cas.
Donc, je ne sais pas s'il y a des élus de la municipalité pour entendre l'appel.
Oui.
Est-ce que, Jackie, tu veux prendre les questions de la salle?
Oui, oui, s'il y a des questions. Et puis, entre autres, moi, j'en laisse une. Mais vous avez fait allusion. Pourquoi on a pris cet exemple? Parce que vous êtes de Poitiers. Ben, c'était assez pratique. D'une certaine façon, on vous a sous la main, si j'ose dire.
Voilà.
Mais en même temps, c'est au-delà d'étendre ça, la question, effectivement, de... La compagnie Swissair, par exemple, a des antennes dans toute la France sur la peur de l'avion. Donc, il y a une antenne, par exemple, à Tours. Donc, c'est un simulateur de vol. On voit bien qu'autour de cette peur, la peur de créer, la peur de la créativité, on peut peut-être étendre ça. Et là, je vois, Madès France, une journée sur les araignées, les insectes, les araignées et nous. Et le Muséum d'histoire naturelle à Paris, il y a une personne qui fait justement des stages pour les gens qui ont peur des araignées. Il y a des phobies sur les araignées très fortes. C'est pour vous dire que voilà, on peut renverser aussi des situations qui paraissent difficiles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à Monsieur Coste, Monsieur Derissa, non ? Allez-y. Bon, le
oui. Ben, je voulais savoir, moi, justement, si on était multiphobique, c'est-à-dire que les gens qui sont phobiques de l'eau, est-ce qu'ils sont phobiques d'autres choses ? Ça rejoint un peu la question. Est-ce que c'est la peur des mondes différents qui s'exprime sont multiples ou c'est spécifique à l'eau?
Alors, c'est une bonne question. Personnellement, mes aquaphobes ne m'ont pas parlé d'autres phobies qu'ils avaient. Et je dirais que c'est l'aquaphobie est quelque chose d'assez spécifique. Je dirais que pour certains, c'est aussi la peur de l'inconnu. Et donc, qui rejoint la multiphobie sur la peur de l'inconnu peut rejoindre l'aquaphobie. Voilà. Après, je dirais qu'on est quand même dans un élément différent du quotidien. Et du coup, je pense que c'est un peu particulier par rapport à la peur des araignées ou à la peur de l'avion. Ou... On peut rester phobique de certaines choses, alors que c'est vrai que l'aquaphobie, on peut être amené pour une raison, pour plein de choses, on peut être amené à aller dans l'eau. Donc du coup, je dirais que l'aquaphobie est un peu à part, est une phobie qui n'est pas plus importante que les autres, mais elle peut être assez utile dans le sens où, par exemple, moi j'ai eu un cas il y a pas très longtemps où un enfant était donc tombé dans une rivière, une personne marchait tout simplement, c'était une aquaphobe que j'ai eue par la suite dans mes cours et qui a malheureusement été incapable de sauter dans l'eau pour aller chercher cet enfant. Donc voilà, c'est vrai que rien que pour ça, je me dis que c'est vraiment très intéressant et je dirais c'est prioritaire que tout le monde soit au moins capable d'aller dans l'eau et de pouvoir aider entre guillemets s'il y a besoin.
Oui, ma question c'est, est-ce que vous-même vous considérez vous êtes créateur d'entreprise ou est-ce que vous êtes créatophobe?
Alors pour ma part, je ne pense pas être créatophobe dans le sens où c'est créer quelque chose qui, moi, m'intéresse. Et quelque part, cette activité peut se décliner sous différents aspects. Je sais qu'une année, j'ai eu la possibilité d'emmener mes aquaphobes faire un baptême de plongée. A fallu batailler un petit peu pour les emmener. Mais voilà, on a créé cette façon de comme une récompense un petit peu, où en fait l'activité c'était vaincre leur peur de l'eau, et on allait au-delà, on a créé une passerelle vers une autre activité qui est donc la plongée sous-marine, et du coup certaines personnes ont vraiment apprécié et ont pu continuer. Donc voilà, on s'est servi de cette phobie pour aller vers une autre activité, donc créer autre chose.
Vous êtes créateur d'entreprise ou vous êtes salarié de quelqu'un ?
Ah, moi je suis salarié, moi.
De qui ?
De Grand Poitiers.
Ah, d'accord.
Voilà.
Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que vous m'avez dit qui m'a un petit peu interpellée. Je suis élue dans un petit village au fin fond de la Dordogne. Mmh. Et malheureusement, les enfants n'ont pas accès à cette connaissance de la natation. Hein, la plupart des piscines municipales ont été fermées sur les territoires parce que ça coûte cher. Et donc, on se retrouve maintenant avec certains enfants qui n'ont pas la possibilité d'apprendre à mettre la tête sous l'eau. Et voilà, c'était juste une petite remarque en passant.
D'accord.
Et puis d'imaginer ce qu'on peut faire sur les territoires ruraux comme ça, quelque chose d'autre peut-être que les piscines qui coûtent fort cher, mais qu'on pourrait nettement inventer.
Oui. Alors je sais que j'ai eu l'occasion, moi, de travailler aussi dans les Deux-Sèvres, où justement les enfants n'avaient pas forcément possibilité d'aller à la piscine. Et pour le coup, les communes prenaient en charge le ramassage scolaire et les emmenaient dans des piscines d'été, donc qui étaient ouvertes de mai à septembre. Et déjà sur la période mai, juin et septembre, les enfants pouvaient accéder donc à la natation. C'est pas tout au long de l'année, mais ça leur permettait au moins de mettre un pied à la piscine, entre guillemets. Voilà. Et c'est vrai que par contre, de plus en plus, il y a des endroits comme ça où les piscines ferment, car une piscine, c'est un établissement qui coûte vraiment cher et qui n'est pas rentable du tout. Donc malheureusement, c'est compliqué. Par contre, j'espère que cela va changer, car l'éducation nationale est en train de vouloir mettre obligatoire l'apprentissage de la natation. Donc, il faut croiser les doigts pour que dans quelques années, les enfants puissent tous, en effet, accéder à la natation. Sachant que là, la moyenne, j'ai lu récemment sur une revue, il n'y a que 42% des enfants arrivant au collège qui savent nager une nage codifiée. Donc, nage brasse, crawl, dos ou papillon. Donc, c'est quand même très peu.
Voilà. Est-ce que je peux rappeler aux auditeurs de se présenter avant de prendre la parole pour l'enregistrement ? Merci.
Oui, bonjour, Denis Brulet, je suis médecin généraliste à Mirbeau et également élu. Peut-être en avez-vous parlé au début de votre intervention, mais je suis arrivé en cours malheureusement. Est-ce que vous avez abordé la question des EHPAD et des personnes âgées qui font des phobies par rapport au bain, par rapport à la toilette, etc. Et il y a une deuxième partie de la question qui m'a été suggérée par l'intervention du monsieur au fond de la salle, à savoir ce qu'il n'y aurait pas des nouveaux métiers, par exemple, de travailler avec les EHPAD sur cette question de la phobie, parce que on s'aperçoit qu'on entend dans les EHPAD, et j'y ai passé un certain nombre d'heures de ma vie, des cris lorsqu'on emmène les gens à la douche ou au bain, pour une génération qui n'a pas connu ni les bains de mer, ni les piscines, ni peut-être aussi les toilettes générales, débarbouiller le coin de la figure, je pense, chez certaines d'entre elles. Donc voilà, cette question, est-ce qu'elle a été abordée ? Est-ce qu'on vous demande d'intervenir en EHPAD ? Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont votre formation, des possibilités de création d'entreprise auprès de conseils vis-à-vis des EHPAD et des directions des EHPAD ? Parce que c'est un véritable problème, à la fois pour les personnes et à la fois également pour, comment dire, l'ambiance générale de l'EHPAD, où on a quelquefois des gens qui, lorsqu'on les emmène au bain, crient dans les couloirs. Donc ça peut quand même aussi être particulièrement péjoratif par rapport à l'ambiance de l'EHPAD.
Juste avant que vous répondiez, peut-être la question de madame et la question de monsieur Brunet me font penser qu'il faudra peut-être qu'on imagine des séances de brainstorming pour répondre à des problèmes réels, c'est-à-dire comment inventer un système au fin fond de la périphérie rurale pour que... Voilà. Ah ben vous avez des idées, ben très bien, on pourra les échanger. Allez.
Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais eu... jamais été contacté par les EHPAD. Et je dirais, alors par rapport, en revenant aussi par rapport à la création d'entreprise, c'est une activité que moi je fais donc au sein de Grand Poitiers. J'ai un seul créneau par semaine avec des apprenants. Cette année, en plus de ça, il n'y en a plus qu'un seul dans notre piscine. Avant, nous en avions deux. C'est une activité qui, pour moi, est très importante, mais qui, aujourd'hui, je dirais, est un peu, pour certaines personnes, dépassée, même si je n'aime pas le terme, car les piscines prennent une autre image avec toutes les activités qu'on peut voir, comme aquagym, aquatraining, aquabike, voilà. Et certaines personnes... préfère avoir 25, 30 ou 40 personnes dans des cours d'aquagym ou d'aquabike que entre 5 et 10 personnes de personnes aquaphobes. Donc, pour le coup, moi, je me bats auprès de ma hiérarchie pour continuer à avoir de l'aquaphobie et pour en avoir, je dirais, plus. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, ce qui rejoint un peu la question de monsieur tout à l'heure, c'est impossible pour moi de créer mon entreprise et de faire que de l'aquaphobie, car c'est une activité qui n'est pas rentable. Et pour le coup, quand on commence à parler un peu finance, ça devient compliqué, même pour le service public actuel. Donc, ouais. Malheureusement, je vais me battre tant que je vais pouvoir pour continuer à pouvoir avoir des cours d'aquaphobie sur la piscine où je travaille. Mais combien de temps, je ne sais pas. Donc, je pense que pour les EHPAD et pour les autres lieux, je pense que c'est un peu pareil, malheureusement.
Voilà, il y a peut-être un.
18 personnes en attente.
Oui. Ah non, c'est des personnes qui sont en attente, qui n'ont pas encore payé leur inscription, puisque moi, j'ai qu'un seul créneau horaire dans la piscine dans laquelle je travaille, et j'ai aucune possibilité d'avoir d'autres créneaux. Parce que les piscines sont quand même très convoitées entre les ouvertures publiques, les cours avec les scolaires, donc l'aquagym, l'aquabike. On a des amplitudes horaires qui sont déjà très élevées. Et du coup, c'est un peu la guerre chaque année pour que chacun ait son créneau. Donc, j'aurai possibilité, bien sûr, que j'aurai d'autres créneaux, mais malheureusement, cette année, ce n'est pas du tout le cas.
Travail de sensibilisation et d'équipement, donc, on a bien compris. Et puis, pour aller dans votre sens, il y a le fait que l'aquaphobie ne soit pas exactement une phobie comme les autres, parce que, comme vous l'avez rappelé, le corps humain, avec les poumons pleins, flotte. Et c'est donc la peur et la panique qui fait que les gens se noient et pas le fait de ne pas savoir nager.
Voilà, c'est exactement ça.
Voilà, c'est ce qui n'arrivera pas dans le cas d'autres phobies où on va simplement contourner le danger.
Voilà, là, une fois qu'on est dans l'eau, on n'a pas le choix d'essayer de revenir au bord et de s'en sortir.
Exactement. Pour ne pas prendre trop de retard, je vais demander à M. Derrissard de nous parler de la créativité dans les territoires ruraux et agricoles, puisqu'on a parlé des métropoles ce matin. Ça nous permet de compléter le tableau.
Merci bien. Merci de l'invitation, d'une part. Alors, sans transition, ou quasi... moi, je vais vous parler un petit peu effectivement de la créativité entre guillemets dans les territoires ruraux et vous présenter un petit peu ma structure de ce fait. Donc, moi, je dirige une structure. Alors, j'ai un petit PowerPoint. Toc. Voilà. Donc, une structure qui s'appelle Sol et Civilisation, dont le sous-titre est Innover ensemble dans les territoires. C'est une structure qui a été créée il y a 25 ans maintenant par des personnalités agricoles qui cherchaient précisément, d'une part, à faire des ponts avec la société et d'autre part, d'essayer de répondre à la question qui a été évoquée là, c'est que les territoires ruraux ne sont pas des espaces, et je cite, hein, du fin fond ou périphérique, mais ce sont bien des espaces de créativité comme les autres. Ce n'est pas des espaces restants entre deux villes. Ce n'est pas des espaces que l'on peut coloniser ou des espaces où il est bon d'y respirer, mais où il est très difficile d'y vivre ou de s'y développer. Et donc, il y a 25 ans, ces responsables se sont posés la question de dire comment on peut reposer la question positivement dans notre société qui devient essentiellement urbaine, y compris en milieu rural d'ailleurs. Comment montrer que l'agriculture est aussi un espace d'innovation et que les territoires ruraux sont un espace d'innovation. Et ce n'est pas simplement pour sauver le soldat rural, hein, comme le soldat Ryan. C'est un sujet de société plus global et qui a là aussi, dans la bonne complémentarité des projets entre ville et campagne, des équilibres de société à construire. Alors, on fait plusieurs choses. D'abord, on est très ancré dans des réalités de terrain. Hein. On travaille avec tout un tas d'acteurs qui cherchent précisément à trouver des voies nouvelles dans les milieux ruraux pour se développer. Donc, on accompagne différentes institutions, collectivités, organisations agricoles et autres. On a une activité de recherche également. Autour de justement les conditions et les moyens d'une innovation collaborative, comme on innove ensemble, comme on est créatif ensemble. Et puis enfin, on a une activité de publication, d'échange, de colloque. Je vous invite, si vous avez l'occasion, on fait un colloque la semaine prochaine, précisément au Conseil économique et social à Paris, sur les nouvelles relations ville-campagne. Donc le 27 octobre prochain. Alors je vais être rapide puisque je serai rejoint là très, très, très prochainement. Je vais simplement vous montrer un exemple d'accompagnement que l'on fait et des problématiques auxquelles on est confronté. Et puis j'ouvrirai sur trois grandes questions à mon avis. Qui se pose aujourd'hui à la vie et à la créativité dans les territoires. Alors, je passe. Donc, comment être créatif ensemble dans les territoires? Quelques illustrations, j'en ferai qu'une puisque le temps est un peu compté. D'abord, la première idée que je voudrais passer, c'est que ce n'est pas naturellement émergent. Vous le savez sans doute, mais être créatif, ce n'est pas naturellement émergent. Et ce qui est encore moins émergent naturellement, c'est d'être créatif ensemble. Tout le monde a des idées. Tout le monde potentiellement peut avoir des idées. Le fait que ces idées se transforment en projets réalistes, ambitieux, pertinents, rentables, etc., c'est encore une autre chose. Et donc, tout l'enjeu, c'est de travailler à des processus de changement qui permettent effectivement de passer des idées au projet. Alors, je vais vous parler d'un exemple qu'on accompagne depuis maintenant près de 20 ans, qui est une coopérative agricole qui se situe dans le Figeacois, donc autour de la ville de Figeac, dans le Lot, au nord-est du département, sur les contreforts du Massif central. Alors là, typiquement, c'est un territoire qui était a priori voué à ne pas avoir d'avenir, d'une part parce que c'est une agriculture qui n'a aucun potentiel de productivité particulière par rapport à d'autres marchés, elle n'a pas de produits de terroir, Et puis, elle ne peut même pas compter sur les circuits courts, puisque la première ville, c'est Figeac, et ça fait 10 000 habitants. Et Toulouse est à plus de 2 heures. Donc, vous voyez, c'était compliqué. Et puis, évidemment, pour y aller de Paris, moi, je me balade beaucoup dans la France. Il faut à peu près 5 heures, quel que soit le mode de transport que l'on prenne. À minima, il faut 5 heures. Donc, voilà, typiquement, les territoires de confins, qui n'ont pas une économie particulièrement agricole, particulière, mais c'est pas le comté, quoi, c'est pas la viande d'Aubrac. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, la première idée, c'est de dire, si le monde agricole reste seul par rapport à ces questions, il disparaît. Et donc, ils ont souhaité progressivement, cette coopérative, se dire, peut-être que retrouver des leviers de développement en s'alliant avec d'autres parties prenantes va nous permettre de trouver d'autres formes de développement et davantage créatifs. Donc ils l'ont fait en 2 temps. D'abord, ils ont réorganisé leur coopérative progressivement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais progressivement sur leur stratégie, leur vision, leur métier, etc. Et puis petit à petit, ils ont créé une autre structure qui s'appelle Figeacteur, qui est une structure associative qui regroupe à la fois des agriculteurs, mais les autres entreprises du territoire, des collectivités, des associations, etc. Et aujourd'hui, il y a 60 adhérents et ils sont en train d'inventer tout un tas de choses. J'y reviendrai, notamment, ils s'appuient sur des choses que vous avez entendues ce matin, des tiers-lieux, etc., etc. Alors, quelques projets de la coopérative agricole. D'abord, ils ont réinventé, entre guillemets, la question du circuit court, en se disant que le circuit court, en fait, était limitant, puisqu'il mettait un agriculteur en face d'un groupe d'acheteurs, mais il fallait élargir le concept. Donc, ils ont inventé les circuits de proximité avec une marque qui s'appelle Sens du terroir, qui est maintenant reprise dans l'ensemble des coopératives françaises. L'idée de Sens du terroir est assez simple, et là, c'est de la vraie créativité, c'est de la subsidiarité de produits. C'est-à-dire, c'est pas un label de qualité comme les autres. Voilà. C'est je vends au plus proche ce que j'ai, mais je vends tout. Alors, pour le dire autrement, à Figeac, ils vendent de la viande qui vient du Figeacois. Ils vendent des légumes qui viennent du Figeacois, mais ils vendent du sel de Guérande. Ils vendent du café du commerce équitable. Ils vendent du vin de Cahors, voilà, etc. Donc c'est en fait, si vous voulez, en poupée russe, le sens du terroir, c'est tous les produits que veut acheter le consommateur, mais avec une logique de subsidiarité. Plus on trouve au local, plus on prend, avec des logiques de qualité quand même, et plus on s'écarte. On a quand même une logique de qualité, mais on peut s'écarter. Ils étaient au début dans les magasins, c'était à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ils sont à plus de 17 millions aujourd'hui. Et je vous dis, cette marque, enfin, ce concept a été repris par l'ensemble des coopératives de France, enfin, par le groupe Invivo et les magasins Gamme Vert. Et puis ils se sont dit, mais notre proximité, c'est aussi Toulouse, même si c'est à 2 heures. Et ils ont proposé, alors là aussi, en allant voir les autres, en créant des nouveaux magasins de producteurs à Toulouse. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que le concept est en train de s'étendre. C'est ce qu'on appelle les frais d'ici, qui a été initié par cette petite coopérative, j'en ai pas parlé, qui fait que 600 adhérents. Hein. Alors ensuite, ils ont fait de l'énergie, parce que l'idée, c'est les territoires ruraux, ce sont les usines à énergie renouvelable de demain. Donc ils ont fait du solaire, ils ont équipé tous les toits de bâtiments d'élevage de toits solaires, et ils ont fait le plus grand parc éolien solaire de France, le plus grand parc solaire sur bâtiments d'élevage de France. Et puis ça a tellement bien marché qu'ils ont gagné de l'argent avec ça, et ils ont fait une ferme éolienne, et là, ils ont cherché pour l'investissement par du crowdfunding de l'investissement local. Ils avaient besoin de 6 millions d'euros. Ils ont fait une campagne sur 3 mois. Ils ont fait des réunions qu'on appelle Tupperware, comme les réunions Tupperware. Mais c'est là aussi, c'est là où je dis que la créativité vient de là. C'est-à-dire que ils sont allés chez les gens pour des réunions sur l'énergie. Et au lieu de récupérer 6 millions, ils en ont récupéré 17. Ils ont dû limiter le ticket d'entrée tellement qu'il y avait de succès. Et puis, bien sûr, ils sont sur les bois énergie, ils sont en train de penser à une usine hydroélectrique, etc., etc. Bref, c'est un des premiers territoires à énergie positive de France. Et puis, avec leurs acteurs, les autres acteurs, ils ont réfléchi à une charte paysagère. Ils sont en train de penser à faire du art, du comment on appelle ça, de l'art dans
du land art.
Du land art, voilà. Ils ont créé non pas un sigle, mais ce qu'ils appellent une mêlée gourmande, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs du territoire définissent qu'est-ce qui fait la gourmandise de ce territoire. Ça va du consommateur, du restaurateur, de l'hôtelier, du médecin de l'hôpital. Et tout ça forme des projets très variés et très disruptifs, hein, par exemple. Là, pour le coup, ils ont ouvert une activité traiteur avec un CAT. Donc les légumes viennent des agriculteurs, les produits sont confectionnés par des handicapés et ces produits vont ensuite via un circuit local dans les différentes écoles. Et puis avec les autres acteurs, ils se sont dit mais si on veut attirer du monde, il faut que les gens puissent me venir et donc il faut qu'il puisse y avoir des crèches, etc., etc. Donc ils ont fait des crèches inter-entreprises. Et ils font un Fab Lab territorial maintenant, et bon, etc. Et ils travaillent sur tout un tas de sujets, comme le travail du conjoint, la mobilité inter-entreprise, etc., etc. L'idée qu'il faut retenir là, c'est que dans ce type de schéma, c'est qu'il n'y a pas de territoire sans avenir, mais il y a des territoires sans projet, que les projets viennent essentiellement de la rencontre des idées et des hommes, et que pour ce faire, tout acteur est légitime pour impulser le mouvement, et que ces coopératives agricoles qui étaient vouées à fusionner pour devenir un bout dans une plus grosse coopérative, au contraire, ont souhaité justement faire un pied de nez au destin et de créer tout un tas de choses. De l'alimentaire, de l'énergie, de la convivialité, des randonnées, des marques, etc. Et ils posent des brevets. Hein. Par exemple, ils ont posé un brevet parce que les toits sur bâtiments d'élevage, ils ont une pente assez faible. Et donc, il fallait des robots très particuliers pour nettoyer les panneaux solaires. Et donc, il a bien fallu, avec l'UT du coin, inventer la nouvelle machine qui allait effectivement laver correctement ces fameux panneaux voltaïques. Voilà. Alors, bon, ça, je passe sur tout un tas d'autres projets. Donc nous, on accompagne à peu près, là, depuis une dizaine d'années, une cinquantaine de projets, comme ça, en France, et un peu au Maroc, mais essentiellement en France. Ça nous a amené à, et c'est là où je définis, parce que l'idée est de montrer, les territoires ruraux sont des espaces créatifs. Je dirais même que ce sont les laboratoires, les premiers laboratoires de l'innovation de demain, puisqu'il faut penser la distance, la non-densité, etc. Mais néanmoins, il y a trois défis, à mon sens, pour pouvoir effectivement être créatifs ensemble. Alors, le premier, c'est le défi de la co-construction. Comment associer les différentes expertises dans l'action? Comment faciliter la rencontre et le partage des diagnostics entre les acteurs? Comment permettre la négociation entre ces acteurs et identifier les jeux gagnant-gagnant? Et formuler pas à pas des projets partagés par tous. Ce qu'on constate, c'est que le participatif ne suffit pas. Il ne suffit pas de mettre des gens autour de la table pour que les idées émergent, pour que les projets soient cohérents et que les stratégies s'articulent. Et donc, il y a besoin d'une nouvelle fonction qui existe assez peu, nous semble-t-il, dans les territoires, une notion de facilitation stratégique qui permet de relier les problèmes des uns et des autres pour faire projet. Typiquement, quand on a un maître nageur qui a une très belle idée pour faire de la lutte antiphobique de l'eau et qu'on a un médecin qui nous dit « mais ça serait très bien de travailler dans les EHPAD », à part le fait de venir une fois de temps en temps à Poitiers, personne ne les mettra en contact. Et la collectivité qui emploie l'un n'aura pas l'idée de se dire « mais ça peut faire partie d'un plan de santé territorial ». Donc quelle est cette fonction de diplomatie entre les acteurs, à part le dire « ah bah oui, il suffit de se rencontrer, ça sera bien », c'est pas vrai, ils se sont rencontrés là, mais ça va pas faire un projet. Ça fera pas projet, donc il faut bien une fonction de médiation stratégique qui permet effectivement de passer de l'un à l'autre. Et quand on fait de la médiation stratégique, on voit que d'ailleurs, les uns et les autres ont des contingences liées à leur métier, liées à... voilà, qui ne vont pas forcément s'articuler, donc il y a besoin d'articulation fine. Donc de la diplomatie territoriale. Le deuxième, c'est l'innovation. L'innovation, c'est sortir des cadres, or tout est cadré. On est cadré dans la capacité d'initiative et l'expérimentation par un certain nombre de réglementations. Donc il faut savoir ou il faut oser avoir des marges de manœuvre potentiel et donc c'est ça interroge le pouvoir public et les élus qui se disent oui mais c'est pas dans le SCOT, c'est pas dans le flux, mais oui mais regardez le règlement machin, etc. Comment faire? Deux, comment on relie la recherche développement et les projets territoriaux? Les chercheurs ne veulent pas aller en milieu rural, hein, ils veulent écrire des articles pour publier dans les revues à comité de lecture. Et puis les chercheurs ou la recherche-développement, elle se fait dans les villes parce que c'est là où il y a la concentration des moyens et des labos. Donc effectivement, comment reconnaître l'activité de créativité liée à la recherche dans des espaces peu denses? Quand vous regardez la carte d'où se fait la créativité en Europe, tout le monde dit que ça se fait dans les grandes agglomérations, tout simplement parce qu'on a une seule loupe, c'est le nombre de brevets, ou une deuxième loupe qui est le nombre de chercheurs. Donc forcément, ce qui apparaît dans les cartes, c'est les grandes métropoles. C'est jamais les territoires périphériques, dits périphériques, parce que là, il y a aucun indicateur qui permet de dire mais là il y a de la créativité. Et puis enfin il y a un troisième défi à l'innovation, et ça je pense que tout le monde l'a ensemble, vous l'avez compris, l'innovation vient essentiellement de la connexion entre les hommes, et par définition les hommes n'ont pas les projets a priori, ils se construisent dans l'action. Or on sait financer un rond-point, même très cher. Et par contre, financer un processus en train de se faire, on ne sait pas faire. Je veux dire, bah, vous pouvez mettre 300 000 euros sur Figeac, parce que peut-être qu'en 2020, ils vont réinventer quelque chose. Personne ne sait financer ça aujourd'hui. Personne. En revanche, si le maire de Figeac dit « moi, j'ai besoin à son département d'un rond-point de 300 000 euros », on sait le financer. Et donc l'innovation, qu'on ne se trompe pas, s'il n'y a pas des capacités de financement d'incubation, et on l'a bien vu avec les tiers-lieux, hein, toute la difficulté qu'ils ont à avancer, on n'y arrivera pas. Donc là, excusez-moi, mesdames les clowns, il faudra, à mon avis, retrouver des démarches bottom-up. Et puis enfin, la question de la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est pas simplement... La gouvernance, c'est pas simplement décider ensemble. Pour moi, c'est décider et agir ensemble. Ce sont des dispositifs où les acteurs se retrouvent pour à la fois négocier, décider et agir ensemble. Donc le participatif, à mon avis, ne fonctionne pas, parce que le participatif, c'est des lieux où on discute beaucoup et on dit « il n'y a qu'à Faucon », mais on ne s'y engage pas forcément. Donc on révèle les dissensus, mais on ne construit pas des consensus de projet. Donc il faut trouver des modes de gouvernance collaborative. Ensuite, il faut des gouvernances de processus plutôt que des gouvernances de projet, c'est-à-dire des gouvernances qui permettent aux acteurs d'avancer ensemble plutôt que de piloter un projet avec des indicateurs prédéfinis. Et puis enfin, et là c'est la grosse difficulté, c'est que c'est le projet qui fait le territoire et pas l'inverse. Et donc il faut des gouvernances souvent multiniveaux. En fonction du territoire, la gouvernance n'est pas la même. Pour reprendre l'exemple de Ferme de Figeac, quand il travaille avec Toulouse, son territoire, c'est l'Occitanie. Quand elle travaille le solaire, c'est évidemment le Figeacois. Comment construire un territoire qui est transverse au périmètre administratif que l'on a ? Aujourd'hui, on travaille dans des cadres et pas entre les cadres. On travaille, ou alors on articule des périmètres, mais de façon un peu contrainte. Et donc, il faut retrouver des modes de gouvernance à périmètre variable. Et donc là, il y a donc des dispositifs à inventer. Et là, là aussi, il y a besoin de créativité d'ailleurs. Voilà en quelques mots pour vous présenter. Moi, je voudrais simplement conclure en disant que ce qui fait, mais bon là c'est peut-être un peu de militance, mais ce qui fait la richesse de la France aussi, c'est sa capacité de créativité dans ses territoires ruraux. Que sur la planète, il y a peu d'espace comme ça, autant producteurs de valeurs et surtout très attendus, hein, autour de l'alimentation, des énergies, du vivre ensemble, de la solidarité, etc. etc. Et que clairement aujourd'hui, on pense que l'avenir sera fait par les métropoles. L'avenir, le bien-être sera fait par les métropoles. La croissance sera faite par les métropoles. C'est un peu dommage. On serait très créatif à considérer qu'au contraire, elle se ferait sur deux jambes, dans une bonne complémentarité entre les métropoles et des espaces non denses, si on veut véritablement, sans techniciser le concept du développement durable, si on veut vraiment véritablement s'engager dans des processus durables. Voilà. Je vous remercie.
Merci. Alors, voilà, l'intervention a abordé des tas de choses intéressantes et vous avez posé en préambule la question de l'égalité des territoires pour conclure sur la question de l'égalité des territoires. Donc, effectivement, c'est des questions qu'on n'a pas forcément toujours autant à l'esprit qu'on devrait à l'époque où on lutte pour l'égalité homme-femme, pour toutes les inégalités, mais on est en train de créer des inégalités dans l'autre sens et on ne s'en aperçoit pas forcément. Je retiendrai aussi l'aspect global des projets que vous avez présentés et ce qui en font, à mon avis, toute leur valeur et toute leur pérennité après sur le territoire. Rapidement, on va prendre quelques questions dans la salle où j'appelle directement.
En même temps, tu peux appeler.
En même temps, j'appelle la table ronde. Donc, si Michel Cuau est parmi nous, Michel Cuau n'est pas hier parmi nous, et Monsieur Persuit, écologue.
Et puis, il y a dans la salle aussi des élus de communes rurales, donc ils pourront aussi. Vous êtes déjà intervenu, Madame, mais il y a des gens de Lussac, les Églises aussi. Vous pourrez nous dire aussi, nous parler de votre commune un peu.
Dans des espaces où, en plus, la question de la créativité elle-même est parfois présentée comme une prérogative des métropoles et pas des territoires ruraux, effectivement. Je vous en prie, Monsieur Persuit.
Oui, bien bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation de Mendes France, que j'ai rejoint maintenant depuis quelques années pour travailler sur des projets qui touchent notamment à l'environnement et à l'écologie, puisque c'est mon métier. Je suis écologue forestier. J'ai vu que sur le papier, on m'avait mis dans une catégorie spéciale qui est celle des nouveaux retraités. Bon, mais retraité, je l'espère, le plus actif possible. Je suis également vice-président de Promet. Promet est une association régionale qui se bat beaucoup pour réinstaurer et redonner à l'arbre et à la haie leur place indispensable dans les territoires ruraux, bien évidemment, et singulièrement dans les exploitations agricoles. Alors, on parlait de la table ronde avait pour objet le partage et l'usage des territoires ruraux. Je voudrais l'illustrer par une problématique, moi, qui me concerne pas moi seulement, mais qui concerne l'ensemble des citoyens français, en matière d'usage justement du territoire rural. Il y a un certain nombre dans nos campagnes de chemins. Des chemins vicinaux, des chemins ruraux, des chemins départementaux, etc., qui ont d'ailleurs parfois tendance à disparaître, malheureusement, que l'on essaye de réinstaurer, puisque la randonnée dans les territoires ruraux, c'est une activité qui fédère beaucoup de personnes. Moi, la problématique qui me touche beaucoup, c'est celle de l'égalité, justement, au niveau de l'usage de ces territoires ruraux. Je m'explique. Parce que j'ai vu que tout à l'heure était normalement invité donc un représentant de la Fédération des chasseurs. Il y a quelques années, il existait en France une journée sans chasse. Pourquoi ? C'était pas une journée dirigée contre les chasseurs. C'était une journée qui était décrétée pour permettre aux gens qui fréquentent les territoires ruraux de se promener sans problématique de sécurité, qui permettait de se promener avec des enfants sans imposer à ses enfants le spectacle de temps en temps un petit peu violent d'un animal tiré pas très loin d'eux ou d'une meute de chiens qui vient sur le chemin, etc. C'est pas toujours bien perçu ou bien compris par les enfants. Cette journée sans chasse n'existe plus, alors même qu'il y a une demande sociétale extrêmement importante depuis quelques années. Il y a des pétitions permanentes. Les non-chasseurs représentent quelques dizaines de millions de personnes, les chasseurs 1 million ou un petit peu moins de 1 million de personnes. Donc il y a un vrai problème de répartition du temps disponible quand on fréquente l'espace rural. Et pour moi, c'est un problème de démocratie. S'il y a une journée où les gens peuvent se promener tranquillement, ça laisse 6 journées aux chasseurs le soin d'exercer leur activité. Le droit de chasse est un droit acquis. Il n'est pas question d'y revenir là-dessus. Je ne fais pas partie des anti-chasses. J'essaye de faire progresser le monde de la chasse vis-à-vis de la perception d'un certain nombre de problématiques environnementales. C'est pas toujours simple, mais la disponibilité temporelle des espaces ruraux me paraît être quelque chose d'important et de joyeusement passer sous silence. Je veux dire que malgré les demandes régulières de contact avec nos élus de la République, aucun moyen de revenir sur cette instauration, notamment du dimanche sans chasse, puisque c'est la demande sociétale actuelle. Il y a des centaines de milliers de Français qui ont signé il n'y a pas longtemps une pétition. Voilà, je voulais souligner ce problème-là parce que ça me paraît un des problèmes importants. L'autre problème aussi qu'on pourrait souligner dans le... Alors après, il y a la difficulté de trouver la bonne frontière entre l'espace public et l'espace privé. Est-ce qu'un arbre, un bosquet, une haie n'appartiennent, au niveau du paysage, qu'aux propriétaires du terrain ? C'est un vaste sujet, on pourrait faire des devoirs philosophiques là-dessus. Ceci dit, la terre arable, la biodiversité sont des biens communs, font partie du patrimoine commun. Je pense qu'on a tout intérêt dans les territoires ruraux, c'est ce qu'on essaie de faire à l'association Promet, pour travailler ensemble et faire en sorte qu'on fasse une agriculture productive, mais en même temps productive de biodiversité, productive de paysage, productive de beauté. Donc une agriculture qui préserve les haies. Malheureusement, on est dans une situation où on doit encore répéter que ces haies et que ces bosquets sont véritablement indispensables à la conservation des sols, des paysages, et notamment dans le contexte du changement climatique, indispensables également à la productivité agricole en elle-même. Donc voilà, il y a beaucoup d'incompréhension, je crois, entre le monde rural et un certain nombre d'acteurs qui travaillent ou qui interviennent dans ce monde rural. Il y a des incompréhensions qui sont dommages parce qu'elles empêchent de progresser. Je pense qu'on pourrait faire autrement. En tout cas, c'est vraiment de l'intérêt collectif, l'intérêt général, hein, d'arriver à faire en sorte que l'on gère ensemble ces territoires ruraux et non pas en opposant les uns aux autres. Juste un exemple, il y a quelques années, une association du Nord-Vienne m'avait demandé d'intervenir à la foire agricole de Loudun pour une conférence qui s'intitulait « La place de l'arbre dans l'exploitation agricole ». C'est une conférence destinée aux agriculteurs. Il n'était pas question de faire parler le seul écologue de service. Hein, on était là pour discuter ensemble, pour échanger, pour apporter des éléments constructifs. Il y avait 85 personnes dans la salle, il n'y avait pas un seul agriculteur. Voilà, donc on a encore du chemin à parcourir pour faire en sorte que les gens apprennent à co-construire. On en parle depuis ce matin de la co-construction et du travail en commun. Dans le monde rural, c'est pas encore fait. Et à chaque fois que quelqu'un, notamment, essaye de faire progresser la cause environnementale, de réclamer par exemple, je parlais du dimanche sans chasse, ah oui, mais c'est des citadins qui demandent ça. Ben non, non. Moi j'habite dans le territoire rural, ma famille habite dans le territoire rural. Mon beau-frère est agriculteur. Enfin, moi, je veux dire, c'est pas que les urbains qui s'intéressent à ce qui se passe dans les gens qui habitent le territoire rural. Ils ont envie aussi de que ces territoires ruraux aient une évolution un petit peu différente. Voilà, c'était juste quelques petits exemples. Il y aurait pu avoir un échange intéressant avec mon voisin chasseur s'il avait été là.
Voilà, parce que le mycologue amateur que je suis vous rejoint tout à fait, donc je ne vais pas polémiquer là-dessus. Peut-être dans le choix des questions de la salle.
Mais justement, peut-être les gens de Lussa, les églises, si vous voulez réagir à ce qui a été dit.
Par rapport aux territoires ruraux, oui. Je voulais dire que le problème évoqué par le monsieur est exactement ce qu'on rencontre. Moi, personnellement aussi, je le vis tous les jours, puisque nous avons des agriculteurs qui, je dis entre guillemets, dévastent, puisqu'ils enlèvent les bosquets, les bois, les arbres, les centenaires, les buissons, pour faire ce qu'on appelle du drainage et de la culture intensive. Et malheureusement, on voit venir que la disparition des oiseaux, enfin la biodiversité qui s'effrite, quoi. Et donc moi je mène un peu un combat contre ça, mais on est incompris, on est même presque ostracisé en disant qu'on est des... Bon, moi je suis une fille de paysan, j'ai vécu à Paris, mais bon, je sais qu'est-ce que c'est que la terre, et il y a un mur.
Je vais vous donner un petit exemple. Vous avez peut-être à réagir là-dessus. Je vous demande pardon, je vais être très rapide. Il y a quelque temps, dans la Vienne, je ne citerai ni le lieu, ni le... on n'est pas là pour effectivement faire la polémique, mais un très gros agriculteur a acheté 650 hectares de terre dans l'est du département de la Vienne. La commune ne disposait pas elle avait une carte communale, il n'y avait pas de plan local d'urbanisme, il n'y avait pas de POS. Donc il y avait pas, la commune n'avait pas non plus décrit son patrimoine, il y a des possibilités de protéger le patrimoine, etc. Ce n'était pas fait. Donc cet agriculteur qui était à la retraite et qui avait cédé son autre exploitation quelque part dans un autre département de Poitou-Charentes, en fait a retourné 650 hectares qui étaient en prairie pour en faire du maïs, du tournesol, du colza. Bon, c'est un choix. Et à l'intérieur dans cette propriété, il y avait 70-80 hectares de bois. Il a déposé une demande à la direction départementale des territoires de raser ce bois-là pour vendre le bois et pour en faire du bois énergie, notamment. La DDT lui a expliqué qu'il n'était pas possible en France, il y avait quand même un code de l'environnement et un code rural et des dispositifs législatifs qu'on avait eu bien du mal à mettre en place, mais qui donc existent. Ce n'était pas possible de raser ça. Il pouvait demander une autorisation de coupe, il pouvait exploiter ça. Le centre régional de la propriété forestière, où j'ai travaillé une quinzaine d'années, était là pour le conseiller, etc. Mais pas possible de faire une coupe rase de 80 hectares. Alors il s'est dit, bon, moi comme je veux quand même faire un petit peu d'argent, il a demandé à la même DDT, mais les haies qui sont présentes, il y avait 12 km de haies sur cette propriété, qu'est-ce que je peux en faire? Bah, écoutez, si vous n'avez pas de poste ou de plus, vous êtes chez vous, il n'y a pas de réglementation qui s'y applique. Donc il a rasé 8 km de haies en fait, il a rasé notamment des chênes pluricentenaires, des arbres creux, etc. C'était un désastre au niveau du paysage, le maire était absolument consterné, la population aussi. Au demeurant, voilà, les choses ont été faites. Nous l'avions contacté à l'association Promet. Il y a eu un collectif qui s'est pour essayer de le rencontrer, discuter avec lui. Il dit, écoutez, nous on propose des plans de gestion des haies. Voilà, elles peuvent se gérer, elles peuvent vous fournir du bois énergie, mais à condition d'être respectées, etc. Il a rien voulu l'entendre et les choses se sont faites comme ça. Bon, on est en 2016 et on voit encore ce genre de problématiques perdurer. Voilà, je veux dire, quand on parle de développement durable, vous savez, c'est souvent des mots. D'ailleurs, je voudrais juste une petite formule. Développement durable, moi, en matière de foresterie, je suis forestier aussi de métier, c'est une notion qui me gêne parce qu'il y a une confusion avec la notion de durée. Le bon terme anglais, c'est sustainable development, c'est-à-dire développement soutenable, ce qui n'est pas la même chose. Un développement peut-il durer éternellement? Là aussi, c'est un bon sujet de philosophie. Je préfère utiliser le terme de développement soutenable, quoi. Mais on en est encore très très loin dans les territoires ruraux, justement parce que les agriculteurs ignorent les environnementalistes, ignorent les urbains. Enfin voilà, c'est des mondes qui vivent les uns à côté des autres, en ne se connaissant pas et en ne voulant pas progresser en échangeant les uns avec les autres. Et c'est bien dommage.
Non, je voulais simplement rebondir là-dessus parce que effectivement, la question des conflits d'usage dans les territoires et notamment ruraux sont démentiels, même je dirais, qu'il y a assez peu de lieux de concertation et qu'on n'a pas, notamment ce que je parlais, là, les fameux facilitateurs qui permettraient de construire des projets et d'essayer de rapprocher les différentes stratégies des uns et des autres. Le seul point que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tout ce que vous avez dit, je pourrais dire, et inversement. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi le problème. Imaginez bien que les agriculteurs, ce ne sont pas, à mon avis, hein, ce ne sont pas des gens désintéressés de la question de l'environnement. Ils ne sont pas contre les petits oiseaux, ils ne sont pas, etc., etc. Ils sont aussi pris dans une forme de système. Enfin, on le voit bien. Il y a un suicide par jour dans le milieu agricole aujourd'hui. Les céréaliers, ça fait 4 ans qu'ils ont des revenus négatifs. Les laitiers, j'en parle même pas. Donc, si on néglige aussi ce volet-là, évidemment, la solution va être compliquée. Voilà. On n'imaginerait pas, nous, urbains, avec notre petit jardinet, qu'on nous impose « Vous avez mis des roses, je veux des rhododendrons. » Vous avez mis, vous faites de la pousse d'un tel, je ne veux pas cette pelouse. Et puis moi, quand je veux passer au marché, ça m'embête de tourner à droite 20 mètres plus loin, je voudrais passer dans votre jardin. Et j'ai bien le droit un week-end par an. Et je comprends pas, vous ne me comprenez pas. Donc tant qu'on sera, et je suis tout à fait d'accord, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais tant qu'on sera dans des logiques où il y en a qui ont raison, il y en a d'autres qui ont tort, ça sera difficile.
Mais vous avez raison, mais c'est ce que je dis en disant les gens vivent les uns à côté des autres sans échanger, sans se comprendre. Vous parlez des céréaliers qui ont certainement des difficultés. L'agriculture industrielle a des difficultés. Les suicides, ils sont malheureusement des drames humains qui se répètent. Malheureusement, j'en ai eu des exemples encore il y a pas longtemps dans des gens que je connaissais bien. Les agriculteurs bio ont moins de difficultés et s'en sortent moins que les agriculteurs industriels qui sont effectivement piégés dans un système qu'ils ont eux-mêmes auto-entretenu pendant des années. Il ne s'agit pas de les accuser et de dire c'est des méchants gros agriculteurs et de l'autre côté il y a les gentils agro-bio. Mais il y a un certain nombre de choses qui perdurent, qui sont analysées, etc. Il y a une multitude d'associations qui existent et qui font un petit peu cet office d'échange et de fédération dont vous parlez avec juste raison. Bon, moi j'ai connu aussi des céréaliers industriels qui ont gagné beaucoup, 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 beaucoup d'argent pendant des années, qui touchent 80% des subventions agricoles alors que les agriculteurs en polyculture élevage ne touchent que 20%. Voilà, le problème est extrêmement complexe. C'est très très complexe. C'est vrai qu'il est important de parler ensemble et d'échanger. Ceci étant, l'arbre est encore ressenti dans le monde rural par les céréaliers comme étant un obstacle. Mmh. On a un mal de chien à établir ce qu'on appelle l'agroforesterie dans les territoires de Poitou-Charentes, c'est-à-dire de réinsérer des lignes d'arbres dans les zones de grande culture, alors que ça marche très bien et qu'on a démontré que la productivité des parcelles en agroforesterie était supérieure à celle de parcelles en culture simple. Mais les gens ne veulent pas croire ça. Et juste un tout petit exemple, parce que sinon, effectivement, on prendra trop de temps. Dernièrement, on était chez un agriculteur bio qui vit sur 70-80 hectares, polyculture-élevage. On a emmené des élèves de lycée agricole. Donc 90% des élèves, les parents étaient agriculteurs, la plupart du temps céréaliers. L'agriculteur, qui est là depuis 30 ans, a expliqué aux élèves du lycée agricole comment il gérait son exploitation, quels étaient ses revenus. Je veux dire, c'était du concret. Hein, c'était pas, voilà. La plupart des élèves, à la fin de la journée, lui ont dit « Bah écoutez, nous, on vous croit pas. Pourquoi vous me croyez pas ?» Mes parents, ils m'ont dit que c'est pas possible. Il faut avoir 300 ou 400 ou 500 hectares, sinon on peut pas s'en sortir en agriculture. Il leur a démontré que c'était parfaitement possible, qu'ils vivaient bien, même s'ils roulaient pas en 4x4 ni en BMW. Ils ne voulaient pas le croire. Donc il y a aussi un conditionnement quelque part, sociétal, je ne sais pas, qui existe encore et contre lequel il va falloir peut-être pouvoir agir, notamment grâce aux structures de confrontation et d'échange dont vous parlez.
Et la formation probablement aussi. Mais attendez, moi je défendais pas l'agriculture pour l'agriculture. Hein. Je disais simplement qu'on est dans des chocs de rationalité. Et penser que notre rationalité et celle qui doit s'imposer à l'autre, c'est pas comme ça que ça fonctionnera.
Et
c'est pas en se disant on a démontré que l'arbre c'est mieux que ça rencontrera naturellement la rationalité de l'autre. C'est ça que je veux dire. Et donc la question de la co-construction, c'est pas une question anodine. Si on veut effectivement faire projet ensemble, il faut simplement se dire qu'il faut aussi comprendre la rationalité de l'autre. Voilà, c'est simplement ça que je veux dire. Et je suis convaincu, il y a des carcans intellectuels dans les deux camps, d'ailleurs.
Absolument.
Si je peux me permettre, dans les deux camps. Et c'est ça qu'il faut essayer d'ouvrir. Mais je vous garantis que quand on construit des processus, mais c'est compliqué parce que ça demande du temps, c'est long, etc., etc., j'ai jamais vu les yeux dans les yeux un agriculteur qui me dise « moi, j'en ai rien à foutre de l'environnement ».
J'en ai vu. Et non, il ne s'agit pas d'imposer, encore une fois. Nous n'avons pas la science infuse, personne ne l'a. Mais vous avez des gens qui acceptent d'échanger ou de progresser. Et d'autres pas. Vous savez, dans le domaine de la forêt, c'est pareil. Il y a des gens qui nous voient dans la forêt qu'une usine à produire du bois, d'autres qui nous voient qu'un espace de biodiversité. C'est les deux à la fois. C'est les deux versants d'un même problème. Je veux dire, on ne peut pas faire du bois si on ne produit pas en même temps dans cette forêt d'où sort le bois, de la productivité. C'est pareil en agriculture. Mais encore faut-il que les gens acceptent d'évoluer.
Je vous propose qu'on ramasse 3-4
questions. Oui, tout à fait.
Oui, dans l'exemple que vous avez évoqué sur l'agriculteur, en fait, c'est que, on a tous été des fois dans les agricoles il y a 50 ans, ça n'a pas évolué. Pour des raisons simples, c'est que, je dirais, le diktat de renseignement était pareil en 1970, et quand j'ai fait l'agriculture en 71, j'étais dans la même situation que ça. Donc là, la question, c'est, dans ces situations-là, il y a la pression environnementale, sociétale qui est nécessaire. Elle ne fait pas au sens. Et arriver à ce que, quand même, on arrive dans les temps futurs, à ce qu'on dissocie l'us, l'usus et le fructus, l'us étant quand même à l'agriculteur éventuellement, encore qu'on peut contester. L'usus, la manière de le faire, contestable éventuellement, contestée, parce que la haie peut être aussi une ressource par l'agriculteur, mais une ressource pour la biodiversité, mais aussi une ressource BRF et autres, enfin, au sens de l'amélioration des sols, donc, et, ou pour les raisons de ruissellement, de ruissellement des eaux, etc. Donc ça, c'est un usus qui est un bien commun. Et après, le fructus, c'est normal que l'agriculteur, comme tout travailleur, puisse récupérer son argent. Donc cette dissociation de la propriété, hein, au sens qui pose problème, parce qu'en fait, on a parlé, moi, de la lecture biologique de toutes les idées innovantes. Quand on ne parle pas de propriété, on chante quelque chose, et là, comme on dit, on avance très difficilement. Voilà.
On ramasse les 2-3 questions. En même temps, dites-nous les communes que vous êtes.
Alors, moi, je m'appelle Isabelle Petit-Fils et donc je suis d'une petite commune de la Dordogne qui s'appelle Meyral. Voilà, donc 600 habitants. Alors, en fait, je voulais revenir sur ce que M. Derrissard avait conclu tout à l'heure en disant qu'effectivement, on avait donc des pôles mégalopoles et puis un territoire rural qui était un peu à l'abandon pour le moins. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on a des dispositifs qui ont été mis en place, qui sont, par exemple, les contrats de ruralité. Alors, ces dispositifs, en fait, moi, ce que je peux en voir et ce que je déplore, c'est qu'en fait, ils sont encore vus par, non pas par la base, c'est-à-dire par des gens qui créent et qui ont envie d'avoir des projets ensemble ou de les co-construire, mais malheureusement qui sont imposés par les super méga communautés de communes. Donc en fait, on se rend compte que cette façon de fonctionner use, émousse un peu, voire même décourage parfois, donc cette créativité qu'on a. Dans ma commune, en fait, y a pas mal de personnes qui ont envie de faire des choses, mais en fin de compte, on nous impose un autre fonctionnement. Donc voilà, je voulais savoir comment on pouvait, par rapport à cette thématique d'aujourd'hui, s'il y avait des gens qui avaient des exemples pour, en dehors de ce qu'on a entendu ce matin, qui était super intéressant.
Ma question va dans le même sens. Denis Brunet, moi, j'ai dit tout à l'heure, je suis médecin jeune retraité à Mirbeau et j'ai fait 4 mandats de conseiller général et je suis rentré l'année dernière dans un conseil municipal. Et là, les choses se sont compliquées. Auparavant, ça se passait très bien. J'étais conseiller général, je travaillais bien avec les maires. à partir du moment où je suis rentré dans le conseil municipal, c'est devenu compliqué. C'est une question de rapport à l'autre. Et j'ai regardé quelques textes il n'y a pas longtemps, en particulier Robert Darbrissel, le fondateur de Fondebrou, qui disait que dans les groupes, il y a deux façons d'agir. Celle de considérer l'autre avec sa différence et d'en faire un problème, et que chacun se retrouve, se replie sur soi. Et puis la deuxième façon, celle que je pense que vous préconisez, qui est celle de regarder l'autre là aussi avec sa différence, mais d'en faire une ressource de richesse, de complémentarité et d'énergie. Et la problématique, et je pense que madame qui vient d'intervenir pense la même chose, dans nos structures communales, intercommunales, même départementales et régionales, on a des structures qui travaillent excessivement en verticalité, c'est-à-dire en silo. Vous avez des commissions sociales, des commissions économiques, des commissions agricoles, etc. Et il y a un très, très gros déficit dans ce pays de transversalité. Et vous ne pouvez construire, c'est pour ça que ma question tout à l'heure, c'était aussi, ça sera aussi de vous demander quel est le porteur du fameux figé-acteur, puisqu'on ne peut réussir qu'en transversalité. Et j'ai eu la chance de présider pendant deux mandats un pays qui travaillait avec les contrats de ruralité. Et ce pays avait la chance d'être non pas un syndicat mixte, mais une association. Et que le fait d'entrer dans l'association des acteurs du territoire donnait une autre vision et permettait d'utiliser des fonds à la fois régionaux, départementaux, nationaux ou européens, avec une vision différente. Et je pense que la problématique dans le milieu rural, c'est la question du rapport à l'autre, la question de l'ouverture d'esprit et la question de la transversalité. Voilà, et c'est ce qui fait la différence des espaces ruraux. Il y a des exemples magnifiques sur certains endroits, mais il y a des milliers et des milliers d'endroits où, encore une fois, on ne réunit pas ces conditions et où les projets avortent, même s'ils existent. C'est la capacité des hommes à s'entendre et à construire ensemble les projets qui fait la différence. Voilà. Donc, merci de nous dire quelle est la structure qui a porté Figé-Acteur. Et puis, encore une fois, je pense qu'on est à peu près tous sur le même avis. C'est une question souvent d'état d'esprit, d'état et d'ouverture d'esprit.
Merci. Si vous voulez répondre de façon groupée.
Il me semble qu'il y avait une dernière question au fond, non ? Non, non. Ah, non. Si, monsieur Brouchet.
Une petite lueur d'espoir. Oui, je suis encore André Brochet, je suis président du club des éco-business angels. Et depuis 2-3 ans, il y a une personne qui a travaillé avec Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Isabelle Delannoy. Et Isabelle Delannoy a écrit un livre qui va paraître là prochainement et surtout a été sur le terrain qui parle de l'économie symbiotique. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les cas qu'elle a traités, il y a justement le cas des haies dans les espaces naturels protégés, ou dans lequel il est démontré que par une approche méthodique qui ne dure pas très longtemps, 2-3 mois, on arrive à mettre les divers acteurs, les diverses parties prenantes autour d'une table à partir de schémas qu'elle appelle des cartes symbiotiques qui montrent les liens positifs et les moins positifs qu'il y a entre les gens, entre les problématiques, etc. etc. Alors tout le monde discute, s'engueule, etc., mais on parle en être humain. Et on arrive à des résultats tout à fait intéressants. Donc c'était la première chose. Et la deuxième, je l'ai dit ce matin, c'est aussi qu'il y a des gens qui prennent en compte l'agriculteur, par exemple, éleveur, par l'intervention du consommateur direct auprès de la production, permet à ce producteur de lait, par exemple, de gagner sa vie beaucoup mieux qu'en passant par tous les intermédiaires. On en parlait dans Antenne 2 hier soir.
Si vous voulez bien répondre, et puis on arrêtera là, parce qu'il faudra enchaîner.
Et conclure en même temps, merci.
Bon, deux, trois mots. Je voudrais reprendre d'abord une notion qui revient très souvent, qui est la notion de bien commun. C'est une notion clé, évidemment, qu'on a tous en tête. Le seul point que je souhaiterais souligner là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de bien commun en soi. Il n'y a que des biens qu'on reconnaît ensemble comme communs. Donc, il n'y a pas de bien, pour le dire différemment, et c'est un prix Nobel d'économie célèbre qui l'a théorisé, Ostrom, il n'y a pas de bien commun sans gouvernance. Donc ça rejoint finalement votre question. Effectivement, tout l'enjeu, c'est l'ingénierie du faire ensemble. En gros, le développement est proportionnel au capital social, c'est-à-dire à la capacité des gens d'être ouverts, de se reconnaître, de pouvoir s'engueuler. Mon président fondateur, qui est mort là, disait « Un territoire, qu'est-ce que c'est ? C'est le lieu où on sait encore s'engueuler. » Donc tout est là, effectivement. Et s'engueuler, c'est évidemment trouver des espaces de transversalité et qu'effectivement, on construit nos politiques plutôt dans une lecture verticale. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de l'égalité des territoires, parce que derrière l'égalité des territoires, il y a l'idée que c'est le nombre qui fait la qualité. Et donc, les espaces ruraux ont le droit à un peu d'obol, parce qu'ils sont moins nombreux, mais on les considère toujours comme inférieurs. Et donc, tant que les territoires ruraux considéreront encore un peu d'argent, monsieur le bourreau, ça ne marchera pas non plus. Donc, je n'ai pas de solution toute faite. Ce que je peux, et d'ailleurs, ça, c'est peut-être la mauvaise ou la bonne nouvelle des prochaines années, il n'y en aura pas. Il y aura des territoires qui réussiront à construire avec leur capital social des projets ou pas. Ça passe par de la créativité, ça passe par aussi, c'est pour ça que j'aime bien, ça passe par le fait qu'un écologue puisse parler avec un agronome et un anthropologue et un maître nageur. Et qu'on ne considère pas que l'agronome est plus intelligent que le maître nageur. Ça passera par là, et ça passera par les trois éléments que j'ai dit, une capacité de facilitation. Tant qu'on n'aura pas de l'ingénierie sur le faire ensemble, on n'y arrivera pas. De la facilitation, des diplomates de territoire ou de projet. Ça n'existe pas, et tant qu'on n'en aura pas, ça ne marchera pas. Deuxièmement, la question de la gouvernance, qui ne doit pas être vue uniquement comme une articulation des pouvoirs, mais qu'une capacité à faire émerger le capital social, au-delà des périmètres imposés par les boîtes. Et puis, une question d'incubation de projet. Comment on innove ensemble sans savoir sur le projet auquel on va obtenir. Voilà. C'est, à mon avis, les trois points que je conclurai. Et pour assurer je suis persuadé qu'il y a évidemment dans tous les camps des gens qui n'ont pas forcément toujours le bon état d'esprit d'ouverture. Je suis complètement d'accord et je peux imaginer qu'il y a des agriculteurs qui sont... Voilà. Je dis simplement que si on considère que l'autre a tort, par définition, on n'en sortira pas. Et que les agriculteurs qui... bousille l'environnement, mais c'est peut-être mon côté utopiste et humaniste, ils le font pas par plaisir.
Oui, moi, sur le fait, encore une fois, c'est l'échange qui est important. Je veux dire, à Promet, on travaille depuis 30 ans avec les agriculteurs qui sont, il y a 4 agriculteurs administrateurs de Promet. Donc voilà, on travaille ensemble. Il y a des gens qui ont compris que c'est comme ça qu'on pouvait aller vers l'avenir. Juste la dernière réaction que vous avez eue sur le fait de permettre à des producteurs de vivre de leur revenu, une des bonnes illustrations de ça, ce sont les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Les gens signent un contrat, s'engagent auprès d'un producteur, d'un maraîcher, d'un producteur de viande ou de tout un tas de production agricole. Et c'est circuit court, voilà, et les gens se débrouillent très bien. Les AMAP, ça marche extraordinairement bien maintenant, et c'est celle qui revitalise une bonne partie de nos territoires ruraux et qui réconcilie les gens avec, effectivement, les contingences et les obligations, les difficultés du travail de la terre. Voilà. Donc, on a déjà des réponses qui sont en marche depuis longtemps.
Merci. On va peut-être arrêter les questions pour passer à la suite sans prendre trop de retard. Merci.
Voilà. Oui. Oh oui, mais ça me fait peur. Oui, mais bon, c'est pas avec la peur qu'on avance, hein. Allez, faites-leur confiance. Oui. Regardez, mais écoute,
Alors, une fois qu'on a étudié les problèmes pratiques de la ruralité, on va reprendre un petit peu de hauteur, même si ça n'a rien de péjoratif, en invitant un philosophe à la table, Monsieur Glenn Horn, s'il vous plaît.
Merci beaucoup à l'Espace Mendez et à mon client Jackie qui est venu me surprendre un jour, deux fois, comme client et puis, et puis André, bonjour. Merci pour cet honneur et je suis très content de pouvoir parler de cette idée qui est depuis deux ans, un peu plus de deux ans, une idée que je teste. Et donc, voilà mes motivations de base qui m'ont poussé à faire cette chose. Je propose dans le quartier latin de Paris une visite des idées, l'histoire des idées. Donc, c'est du tourisme philosophique. Voilà, donc j'ai beaucoup appris par ces conversations déjà aujourd'hui. Chérie, j'ai pris les mauvaises notes. Il me faut d'autres choses, sinon je vais me perdre. J'ai failli commencer à parler de bidouille. Voilà. Alors, un philosophe qui s'appelle Charles Taylor a souligné récemment dans son plus grande œuvre, Secular Age, que nous habitons actuellement, pour la première fois de l'histoire, nous les Occidentaux, dans une époque où il y avait toujours, comme avant, la recherche du bonheur et le florissement, si on peut dire, de l'être humain, le bonheur, le bien-être de l'être humain. Mais c'est pour la première fois que nous le faisons sans transcendance. C'est uniquement l'expérience sur cette terre, pendant la vie de tous les êtres humains. Nous recherchons simplement que ce passage soit bien fait et agréable, et puis il parte. Et on n'en parle plus. Et c'est la première fois que nous sommes là. Alors, dans ce contexte, il y a d'autres comme peut-être le plus grand philosophe actuel contemporain, qui est très vieux, Jürgen Habermas de l'école de Francfort, qui c'est philosophe de la politique. Et lui, il dit qu'il commence à faire des soucis. Il ne sait pas si la démocratie, comme nous le connaissons aujourd'hui, pourrait continuer sans ce qu'il appelle, il n'appelle pas ça les conditions de la démocratie, mais les préconditions. C'est-à-dire cette idée de l'universalité de la dignité humaine. Parce que ça a été rapporté par les cultures, civilisations judéo-chrétiennes. Et lui, qui est un grand athée, il dit que de toute façon, nous sommes athées et la croyance religieuse n'est plus nécessaire. Nous ne croyons pas que c'est nécessaire pour la démocratie, mais au fait, il faut admettre que ça fournit les préconditions. Donc, nous sommes arrivés à cette époque où Jean-Paul Sartre nous réduise à une individualité radicale, et Sartre n'a jamais pu convaincre qu'il y a la possibilité de vivre ensemble avec sa philosophie de cette radicalité individualistique. Donc, c'est dans ce contexte-là, et mon premier client aujourd'hui, de cette année, au mois d'avril, il m'a arrêté, on était seul, c'est un gastro-entérologue de Bretagne qui était là, seul client ce jour-là. Et après 3-4 heures ensemble, il m'a arrêté, il m'a dit, mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous cherchez à transmettre quelque chose ou bien est-ce... Est-ce que vous êtes à la recherche? Et j'ai dit, bon, les deux. C'est difficile de transmettre quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. Mais de toute façon, c'était une question qui m'a fait rebondir un petit peu dans la réflexion. Pourquoi moi je le fais? Et je crois que certainement c'est une recherche personnelle. En me promenant dans le quartier latin un jour, et puis pendant, je faisais des études à la Sorbonne, j'ai vu des plaques historiques, et c'était avant l'Internet, donc je rentrais chez moi, je recherchais, mais qui c'est ces gens qui sont plaqués là sur les murs partout dans le quartier latin? Et petit à petit, je me suis dit, bah, dis donc, c'est incroyable, le quartier latin de Paris est extrêmement important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se sont passées là. Et au fait, nous habitons dans une bulle conceptuelle qui permet que nous avons les droits de l'homme. Mais d'où vient cela? Qui a pensé ces choses? Quelle est la progression de la pensée? Et petit à petit, j'ai eu une petite idée chronologique et j'ai commencé à inviter mes amis anglophones. Et de bouche en oreille, des gens commençaient à venir. Et puis, on me téléphonait, on m'écrivait en disant que nous avons un groupe, des étudiants ou juste une famille qui vient à Paris. Est-ce que vous pourriez nous faire visiter le quartier latin? Et j'ai fait ça depuis l'an 2000 à 2014. Donc, 14 ans de faire ça, juste comme ça. Et c'était toujours en anglais. Et un jour, je me suis dit, ben, c'est ça, il y a quelque chose qui cloche là. Je suis en France et la plupart de ces Américains et anglophones qui viennent, ils ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas d'arrière-plan. Ils n'ont pas fait des études. Donc, ils ne sont pas habitués. Et dans ce contexte, un jour, une amie, Evelyne Durel, m'a téléphoné en disant, Kermit, j'aimerais faire cette visite dont tu as parlé. Et j'ai des amis qui vont venir. Donc ce jour-là, dans l'automne de 2014, elle est venue avec 11 personnes. C'était la toute première fois que je teste mon idée avec des Français. Et j'ai eu peur. Mais ça s'est très bien passé. On a même dîné ensemble, la conversation a continué. Donc pendant l'hiver, je me suis préparé beaucoup plus parce que je savais qu'avec les Français, il faut vraiment être plus au point. Et j'ai commencé en 2015 sérieusement de le faire. Et puis là, j'ai fait des publicités avec Pariscope parce que l'officier des spectacles ne prend pas des gens qui n'ont pas un master en histoire de l'art parce qu'ils veulent vraiment que les guides soient capables de transmettre, si vous voulez, la civilisation française aux touristes. Et donc, ils ne m'acceptaient pas et Pariscope m'a coûté dans l'été à peu près 2 000 euros de mon argent. Et c'était très cher. Alors, cette fois-ci, cette année, je suis allé directement dans le bureau de l'officiel avec mes diplômes en philo et en biologie en disant, je n'ai pas l'histoire de l'art, mais j'ai ça. De toute façon, l'histoire de l'art, ça ne peut pas m'aider, pas beaucoup. C'est plutôt la philo parce que... Ah oui, d'accord. Et depuis, je suis dans l'officiel des spectacles et ça marche beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de clients, mais toujours c'est des clients, c'est une clientèle très restreinte parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui au fait qui font les visites, et quand ils font les visites, parmi eux les gens qui font ça, qui ont cette habitude, ils ne cherchent pas trop à faire de la philo, c'est la bête noire pour beaucoup de personnes qui ont passé ça au bac, ont fait le bac philo. ils ont de mauvais souvenirs souvent. Donc ceux qui viennent sont des gens qui sont dans la philo, qui aiment la philo, qui sont curieux. Et beaucoup de fois, j'ai zéro. Beaucoup de fois, j'ai un ou deux. Mais ça m'est égal. Je préfère presque avoir un seul client parce que c'est un partage. C'est tout le long, c'est un partage. Et souvent, il m'arrive d'avoir des clients qui connaissent beaucoup plus que moi. Comme j'avais un professeur de droit à la Sorbonne qui passait 3h30 avec moi, et c'était elle. Bon, elle ne connaissait pas le Moyen-Âge, mais dans la partie moderne, elle connaissait beaucoup. Donc, je laisse parler les autres. Donc ça, pour les gens qui viennent, ils sont comme ça. J'ai des guides, j'ai des docteurs, j'ai des professeurs, mathématiciens, des proviseurs, directeurs d'école, profs de collège, dans le latin, en maths, les ingénieurs. Mais ils ne connaissent pas trop, la plupart ne connaissent pas trop la philo. Et je commence à avoir des étudiants, par exemple les masters en littérature. Ou bien les parents viennent avec leurs enfants avant qu'ils ne commencent le bac ou commencent leurs études à Paris, juste pour une préparation. Donc c'est passionnant, c'est la chose que je préfère, que j'ai fait pendant toute ma vie. Et je ne sais pas où ça va aller. C'est parce que Jackie était là et puis il a invité, il a dit à André de venir. C'est pourquoi je me suis fait inviter de venir ici. Je voulais juste dire un petit peu mon approche. Mon approche, c'est tout simple. C'est de faire aimer et de faire réfléchir. Aimer la philo, aimer les concepts, un petit produit de à côté, c'est vrai que les gens, quand ils terminent, qu'ils ont une appréciation beaucoup augmentée du quartier latin et de la pensée française. Parce que la France a pourvu des idées, des concepts qui ont changé le monde. Et ce n'est vraiment pas beaucoup trop dire, ce n'est pas trop dire, que la France a été pendant de nombreux moments de l'histoire, la France a été la lumière du monde. Et ils oublient. Et une des choses que j'ai entendu dire par une cliente un jour, c'était que elle a dit toute fièrement que je suis parisienne et j'en suis fière, mais maintenant je suis encore plus fière. Et j'aimerais que les Français disent la même chose. Alors, je mets les gens en ambiance parce que la philo, c'est pas donner des réponses. La philo, c'est plutôt trouver la problématique, articuler, approfondir les questions. Et puis, mon approche, c'est de faire ça tout le long. Je fais la période chrétienne jusqu'à Descartes en 1600, Descartes et Galilée, puis de cette période de 1600 à 1900, à Husserl, Heidegger, je fais ça c'est l'âge des Lumières, la révolution scientifique, et puis à 1900 c'est les postmodernes. Donc je commence avec Husserl et je continue jusqu'à Michel Foucault par exemple. Et souvent ça prend 3h30. Ça peut aller jusqu'à 4 heures, oui, 4 heures. Ça dépend de mes clients. Quand j'ai des clients très brillants et curieux comme Jackie, ils me posent beaucoup de questions. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas mal de clients qui disent, je demande à chaque fois, combien de temps avez-vous? Et ils me disent, bon, je sais pas, 2 heures et demie, nous avons rendez-vous. Et puis ce sont des gens qui restent 4 heures. Parce qu'ils se laissent embarquer. Et les réponses que j'ai reçues jusqu'à là sont le plus souvent, les gens disent tout simplement merci. Et je ne peux pas demander plus que ça. Mais avec cela, ils disent que c'était fantastique, que c'était passionnant, que c'était insolite, surprenant. Ils n'ont pas l'habitude de voir une chose comme ça. Et une autre approche que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent dès le départ qu'ils sont sartriens, qu'ils adorent Jean-Paul Sartre. J'ai lu tout ce qu'il a. Alors pour ces gens-là, je vais essayer de les faire détester Jean-Paul Sartre. Mais ceux qui disent qui détestent Jean-Jacques Rousseau ou détestent Sartre, peu importe, je vais essayer de les faire aimer. Parce que ces géants de la pensée ont toujours le mauvais et le bon côté. Il faut savoir faire le truc. Et les Français ont trouvé un moyen de vivre avec ces penseurs, une manière illustrée par le Panthéon, où deux hommes, deux penseurs qui étaient contemporains, qui se détestaient, qui réservaient les pires paroles acerbes l'un pour l'autre, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, les Français les ont mis côte à côte. Alors, ce que j'ai essayé de faire, et j'essaie toujours à faire, c'est de trouver les fils conducteurs du Christ, donc la partie judéo-chrétienne, jusqu'à Descartes, Foucault, que ce soit la liberté, que ce soit la dignité universelle, que ce soit la science et la nature, la raison. J'essaie de trouver les fils conducteurs, de les distinguer tout le long, et de les comparer, les mettre en rapport avec les penseurs. Mais finalement, il faut que ce soit un brassage. Et c'est ça le Panthéon, c'est un brassage. On met Voltaire et Rousseau côte à côte, c'est un brassage. Les Français ont su ne pas écouter Rousseau quand il a dit qu'il est contre la propriété privée, quand il est pour donner les enfants à l'État pour leur éducation, comme les Spartiens. Mais nous avons su, je suis français parce que je suis américain. Ça me fait automatiquement français. Parce que les fondateurs, John Adams, Jefferson, Franklin, ils étaient les grands lecteurs des Français, de Montesquieu, etc. Donc je peux dire nous. Nous avons pu mettre tout ça ensemble et nous vivons actuellement dans une société, une civilisation incroyable. C'est un miracle. Et oui, on est dans une crise de civilisation. Et oui, nous sommes tous pris un petit peu dans un carcan intellectuel, comme nous avons dit tout à l'heure. Et le but de ces visites, c'est de sortir, de briser les carcans, d'en sortir, de pouvoir réfléchir avec plus de clarté, aération de l'esprit. Alors, donc je fais ça, je ne sais pas où ça va aller. Je ne suis pas manager, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas rassembleur. Je fais ça automatiquement, juste comme ça, comme moi je le fais, spontanément. Mais ce que je commence à dire, à penser, c'est que ce serait super bien d'avoir un SMH de cela, par plusieurs façons. Quand je trouve des gens parmi mes clients qui s'intéressent beaucoup à ce que j'ai dit et qui connaissent un petit peu, je propose systématiquement qu'ils le fassent pour leurs amis et que je serai là pour leur coacher. Je suis là pour donner tout ce que j'ai, tout ce que je possède à eux. Parce que moi, j'ai commencé et je peux vous affirmer que j'ai fait beaucoup, beaucoup de bêtises. Je disais des non-vérités, des bêtises impossibles, mais il faut commencer. Donc, ces gens, mes clients, ils sont capables, avec mes matériaux, d'aller faire la visite pour leurs amis. Je pense aussi... ce serait encore mieux, peut-être pas peut-être pas encore mieux, mais ce serait aussi bien si quelqu'un de vraiment compétent, si vous lisez les réponses, les évaluations dans l'officier de spectacle, il y a pas mal de gens qui disent que je suis très érudit, mais je ne suis pas du tout érudit. J'ai une licence de philo, donc je ne suis pas érudit. Mais il y a des érudits. Il y a des gens qui ont vraiment à cœur de transmettre et qui sont des docteurs ou des spécialistes. Eux, ils peuvent faire peut-être, pourquoi pas, une série télévisée, une série, au moins un film, pour montrer. Ce serait super bien. J'aimerais faire ça aussi pour des classes de philo. Moi, je ferai pas la visite, mais j'aimerais aider les professeurs de philo. Parce que eux, par exemple, s'ils viennent de Poitiers, peut-être ils ne connaissent pas les rues, ils ne connaissent pas les adresses où habitait Blaise Pascal ou Auguste Comte. Vous voyez ? Donc, je peux les assister, leur aider à faire ça pour leur classe. Et cette expérience de venir à Poitiers aussi, ça me donne l'idée, mais pourquoi pas faire ça dans d'autres villes comme Bordeaux, Toulouse, toutes les villes en France qui avaient un quartier latin, comme ici à Poitiers. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. C'est D-I-W-O, Do It With Others. Je crois que ça ne peut pas aller sans faire ça avec d'autres personnes. Voilà.
Avec d'autres personnes, dont notre auditoire, puisque à 18h, après nos échanges, Glenn nous emmène dans les rues de Poitiers pour découvrir l'histoire philosophique de la ville et de la France. Bien sûr.
Merci.
Alors, s'il y a des questions, on peut les prendre tout de suite. Dans le même temps, j'invite les animateurs de la prochaine table ronde. Donc, on peut vous inviter au voyage intellectuel dans les rues de Poitiers. On ne peut pas vous emmener beaucoup, beaucoup plus loin pour des questions de moyens. Donc, on va vous inviter au voyage avec des intervenants plutôt. Voilà. Alors, j'invite Monsieur Franck Michel, anthropologue. Monsieur Florian Caroubi, président de l'association Cultunira. Et Dominique Arnaud, s'il vous plaît. Potentiellement accompagné de Madame David Céline.
C'est vous l'animatrice ?
D'accord.
Donc,
En deux mots, je me présente, Franck Michel, anthropologue. Donc, merci à Jackie déjà et à toute l'équipe de Espace Mendès France pour cette nouvelle invitation. Et je suis très heureux de revenir. Et donc, en deux mots, je me présente un tout petit peu, je fais deux, trois anecdotes, puis après, je vous explique ce dont je vais vous parler. Donc, je suis anthropologue, je suis spécialisé sur le voyage, dans tous les sens du terme. Ça va donc des migrants jusqu'aux touristes, hein, tout ce qui voyage, en fait, si on veut. Et j'ai deux bases arrières, donc j'habite à Strasbourg, donc je suis un peu loin ici, et j'habite aussi en Indonésie, à Bali. Et donc, Strasbourg, c'est un peu une métropole. À Bali, j'habite plutôt dans une commune de moins de 1000 habitants. Et voilà, c'est pour être fond d'air. Et c'est vrai que En plus, en milieu forestier, je crois qu'ils sont partis là, des gens pour parler de la forêt. Parce que je voulais faire deux, trois petits liens juste avant de commencer. C'est par exemple, c'est vrai que moi, je vais un peu vous donner des aperçus, des perspectives un peu anthropologiques, un peu vite fait, mais quand même, le but, c'est qu'on voyage un petit peu de ce par ce biais-là. Et donc, c'est un peu un détour, je vais proposer un détour, parce que je ne travaille pas trop sur la France, je travaille beaucoup un peu ailleurs dans le monde. Et du coup, on va faire un détour pour revenir finalement mieux ici, quoi. Parce que c'est toujours un peu ça qui est intéressant. Détour, c'est aussi un peu un hommage à Georges Balandier, qui est mort il y a deux semaines, qui est un anthropologue vraiment pour mon bien, qui est très méconnu en France quand même, finalement, pour ce qu'il a fait, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Détour, je vous invite à le dire, qui est intéressant. Ensuite, tout à l'heure, quelqu'un nous parlait de l'arbre qui est toujours qui gêne toujours quand les agriculteurs, vous rappelez, enfin, c'était juste avant. Et ben, c'est vrai que c'est intéressant le détour par d'autres philosophies, parce que quand on passe, par exemple, un proverbe asiatique, il dit le détour est la voie la plus droite. Et ça, c'est intéressant à méditer. C'est un peu sujet de philo pour le bac, mais c'est quand même intéressant de voir, effectivement, dans le village où moi j'habite, donc la commune de moins de 1000 habitants, à Bali, qui est donc dans un milieu, dans la forêt, quoi, dans le nord de Bali, et ben, je veux dire, il y a un arbre au milieu du village. Et puis, en fait, il gêne vraiment considérablement la circulation. Mais en fait, ça gêne uniquement les Blancs quand ils viennent avec la voiture, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est comme ils sont dans une rationalité de type occidental, pour aller vite, nourrie de judéo-christianisme, pour aller encore plus vite, et donc de monothéisme. Ils ont du mal à comprendre que cet arbre, on ne le coupe pas. Parce qu'on ne le coupe pas, pas seulement parce que le proverbe dit que le détour est la voie la plus droite, mais aussi parce que tout simplement, l'arbre, il est là, ben, les balinés vont faire le tour. Alors, ils vont perdre 3 minutes, je sais pas, ou 2 minutes, mais l'arbre est vénéré parce qu'il est au centre du village, il est au centre de la route, et ben, on fait le tour, quoi. Donc c'est un exemple injuste, mais pour un peu parler par ce qu'on a dit avant. Et ça me paraît assez intéressant de faire ces allers-retours culturels, en fait. Je vais essayer un petit peu de vous entretenir pendant, je sais pas, une demi-heure, je ne sais pas combien de temps j'ai exactement. Je sais pas. Donc vous me direz. Alors ce que je vais faire maintenant, en deux mots, c'est est-ce qu'il y a encore la personne pour le maître nageur qui était là? Il est encore là?
Non, il est parti.
Ouais. Donc je laisse tomber l'anecdote que j'avais là-dessus. et donc ce que je veux dire, c'est je vais en fait vous emmener un petit peu. Ça fait un peu une respiration aussi. Avec, je vais pas te montrer PowerPoint, mais je vous montre deux petits clips, deux petits montages vidéo que j'ai fait avec mon association qui s'appelle La Croix des Routes. Vous aurez le site. Vous avez aussi les cartes de visite là-bas si vous voulez plus d'infos sur les bouquins que j'ai fait et tout ça. Donc ça s'appelle La Croisée des Routes. Et je vais vous emmener un peu en Patagonie pendant 5 minutes. C'est par rapport à un travail que j'ai fait. Alors là, ce n'est pas le tourisme philosophique, mais c'est le tourisme scientifique. Alors, c'est un autre créneau porteur dans certains milieux. Là, en l'occurrence, c'est un travail que j'ai fait pour l'université en Patagonie chilienne. Et sur l'essor, on va dire, ou le développement d'une niche qui s'appelle le tourisme scientifique. En fait, c'est d'emmener, par exemple, des géographes ou des géologues, ou des, je sais pas, des spécialistes des cétacés, par exemple, et les faire voyager là-bas avec des spécialistes qui leur expliquent encore plus de choses. Et donc, c'est un tourisme un peu haut de gamme, on va dire, hein, avec des gens qui veulent vraiment savoir plus de choses sur cette région. Alors, moi, je suis plutôt anthropologue, donc c'est plutôt les êtres humains qui m'intéressent, même s'il n'y en a pas beaucoup en Patagonie par rapport à d'autres endroits. Et donc, je vous emmène, voilà, un petit peu ça. Donc, ça parle un peu d'un des bouquins que j'ai écrit sur cette thématique. Il y a aussi la musique, parce que je pense que c'est important aussi pour la créativité. Il n'y en a pas eu beaucoup, là. Ça va être un groupe Mapuche, un peu engagé. Donc, ça met un peu de... C'est bien aussi. Alors, le groupe Mapuche, par contre, quand je le montre sur place en Patagonie, je dois m'expliquer. Alors, vous n'êtes peut-être pas spécialiste des Mapuche, à moins qu'il y en ait peut-être ici. Mais c'est vrai que le groupe, notamment, alors là-bas, c'est très compliqué. Il faut que je leur explique que c'est un groupe qui vient de 100 km au nord de la zone sur laquelle j'ai travaillé. Donc, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas un groupe qui vient du même coin où j'ai travaillé. Là-bas, ça fait un scandale, donc il faut vite faut que je précise que c'est un groupe qui vient un peu d'au-dessus et qui est très engagé dans la cause Mapuche, qui sont en fait les cousins lointains de cette population-là, dont je vais vous parler, moi, en Patagonie, qui est en fait la Patagonie oubliée, là où les touristes vont moins. Donc, c'est un territoire, si on veut, qui essaie de se développer pour trouver une alternative à un tourisme évidemment de masse, mais aussi à un tourisme. On essaie de trouver un tourisme éthique et intelligent à développer là-bas, qui est aussi, en fait, les touristes français, par exemple, ils vont au nord de la Patagonie et ensuite ils vont à Torres del Paine, dans le sud de la Patagonie. Alors, souvent, ils prennent le bateau ou l'avion et ils vont pas toute la partie centrale, qui est en fait très intéressante, mais qui est un peu oubliée. Donc l'idée, c'est aussi de mettre en tourisme un territoire un peu oublié, mais surtout extrêmement authentique, pour aller dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a encore les gens qui veulent vraiment aller dans la Patagonie profonde chilienne, bah, ils vont plutôt aller là, quoi. Donc ça, c'est un peu l'idée, c'est pourquoi on a fait cette étude-là. Et ensuite, tout à la fin, donc là, vous me direz, quand j'aurai plus que 3 minutes à peu près, ça va durer 5 minutes, et ensuite, il y aura un dernier montage vidéo que je monterai sur là où j'habite, en fait. Donc c'est des petits exemples, hein, de tourisme créatif ou alternatif, ce qu'on voudra. Et là-bas, c'est une, là où moi j'habite, j'ai créé une bibliothèque depuis maintenant 12 ans, une bibliothèque villageoise, rurale. Moi j'habite vraiment en milieu rural du coup. Et là, c'est pour les gens en fait, en milieu pauvre, rural, montagnard et tout ça, qui en fait n'ont pas accès à la lecture, et, etc. Et avec un travail en fait qui est fait, c'est un petit montage qu'on a fait avec des enfants qui sont en train de lire. Et ça me paraît aussi être une action assez intéressante qui est réappropriée en fait entièrement par les autres, par les locaux. Donc ce n'est pas c'est pas nous qui amenons quelque chose, on amène une idée et après le but c'est que eux se l'approprient. Donc je vous montrerai ça avec aussi de la musique, ça donne un petit peu d'ambiance. Ça dure qu'une minute, hein, donc c'est pas très long. Voilà, et puis entre les deux, bah, je sais pas, je vais essayer de vous discuter un petit peu de ce qu'on a dit aujourd'hui et puis de d'autres petites thématiques sur lesquelles je travaille. Alors, je ne sais pas si le son marche, on va.
Ça va le son ? Je ne vais pas trop parler pendant qu'il y a le truc. Hein.
L'idée, c'était aussi, alors je vais donner une anecdote quand même. Vous avez à un moment donné un monument que vous avez peut-être vu en vert, juste qui était sur la route. C'est le dernier monument à la gloire de Pinochet qui est sur la route australe, qui est donc devenu un lieu touristique. Enfin, donc c'est intéressant parce que c'est le. Et en fait, en tant que Français, je dirais fils des Lumières et de la Révolution, ça c'est pour, pour notre intervenant précédent. Donc ce qui est très intéressant, c'est que j'ai fait un article dans la presse locale chilienne avec des anthropologues amis chiliens qui me disaient « Est-ce que tu ne peux pas faire un texte là-dessus ? Parce que nous, si on écrit là-dessus, il y a encore des restes de la dictature, c'est compliqué, enfin, etc. » Et puis j'ai fait un article et il me dit « Toi, tu es français, tu peux le faire. Parce qu'en fait, vous êtes des révolutionnaires, vous êtes des gens qui râlaient tout le temps, donc tu peux faire un truc en disant que c'est quand même bizarre qu'il y ait encore un monument à la gloire de Pinochet sur la route, etc. » Et donc j'ai fait un article dans la presse et effectivement, c'est passé chez les rédacteurs en chef parce que bon, bah, je suis un étranger français, donc j'ai pu utiliser ça pour faire passer un message. C'est aussi une manière de faire de la créativité d'une certaine manière. Et en fait, l'article est passé. J'ai juste dit, c'est quand même bizarre qu'il y ait un monument en plein milieu du village à la gloire de Pinochet, qu'il n'y ait pas un jeune qui a envie de faire des graffitis dessus, enfin, etc., qu'ils n'ont pas envie de. Qu'il ne se passe rien, quoi. C'est quand même étonnant. Et alors, effectivement, le rédacteur en chef me dit, bah, c'est, il y a 80% des habitants du village sont encore pro-Pinochet. Donc, le jeune, il n'aura pas le courage de le faire. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, ça fait un débat, même avec les journalistes de la rédaction. Et à partir de petites choses comme ça, on peut un peu, je dirais, soulever les consciences, quoi. Enfin, un petit peu bouger ce qui se passe. Je pense que c'est un peu ça aussi que parfois, l'objet du livre, c'était souvent de parler de ça, de parler de ce qu'eux ne peuvent pas toujours parler, de faire un peu le passeur, hein, je dirais, l'intermédiaire, par rapport à certaines problématiques, comme les pêcheurs, par exemple, hein, la pêche, comme, enfin, le tourisme, c'est une alternative à la pêche. Donc, est-ce que c'est intéressant, hein, donc, ce genre de débat ? Donc le but, c'est de travailler avec les pêcheurs pour voir est-ce que le tourisme, ça va être une alternative, parce qu'il y a un taux de suicide très très fort aussi là-bas, hein, enfin, chez les pêcheurs. Il n'y a plus de boulot, il y a la pêche industrielle, enfin, c'est absolument terrible, le saumon, etc. Donc je vous passe les détails, mais donc du coup, là, il y a une dépression comme ça au sein de la population qui est très dure. Et comment donner de l'espoir par rapport à essayer de penser l'avenir ? Et je pense, là, c'est intéressant, parce que le travail à faire, ce n'est pas simplement développer le tourisme pour faire du business, créer des hôtels. C'est plutôt essayer de faire qu'est-ce qu'on peut faire pour. Est-ce que le tourisme peut être une alternative saine pour les pêcheurs et pas forcément pour les multinationales qui vont développer des hôtels. Donc c'est très intéressant comment il y a des stratégies qui doivent être mises en place aussi pour essayer de servir d'abord les intérêts des locaux et d'utiliser l'université notamment qui m'a pris pour ça, plutôt que de servir l'industrie touristique. Donc c'est ça aussi qui était un challenge que je trouvais assez intéressant à faire. Et du coup, le bouquin que j'ai fait, c'est pas un rapport de type sociologue qui va faire un rapport sur le tourisme ou le développement qu'il faut faire là-bas. J'ai fait exprès un récit de voyage mélangé avec des perspectives anthropologiques qui est assez critique sur le développement touristique afin de préserver les populations. Et l'université m'a beaucoup suivi là-dessus en disant bah ouais, le but c'est qu'il faut pas développer tout et n'importe quoi. Et donc, il faut plutôt développer pas grand-chose. Par contre, ce qu'on développe, c'est des petites choses, des micros locales, un peu ce qu'on a dit ce matin, aussi à l'échelle locale, etc. Toujours. Donc ça, c'était assez intéressant de ce travail-là, quoi. Alors, bon, peut-être pour la Patagonie, c'était un peu pour vous faire un peu de dépaysement aussi, hein. Maintenant, je vais peut-être vous dire deux, trois petites choses sur refaire le lien avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Et par rapport au titre de mon intervention, tu as mis utopie, autonomadie et aventure, etc., et voyage. Alors, c'est vrai que j'ai créé un terme dans un de mes bouquins, dans deux bouquins que j'ai écrits qui parlent d'autonomadie dans le titre du livre. Notamment un qui s'appelle Route, éloge de l'autonomadie. Et en fait, l'autonomadie, c'est un terme qui ne vous dit pas grand-chose, je pense, que j'avais créé en fait, il y a 7-8 ans, et qui maintenant, apparemment, commence à être utilisé dans certains dicos. Mais c'est vrai que c'est une contraction, en fait. C'est un peu deleuzien, hein, ça rejoint un peu, peut-être, certains héritages philosophiques qui peuvent exister dans certaines mouvances. mais c'est une contraction en fait de autonomadie et de nomadisme. Parce que je pense que l'autonomie et le nomadisme ont beaucoup de choses à partager et à faire ensemble. Aujourd'hui, on a parlé d'autonomie un petit peu, hein, puisqu'on a parlé beaucoup de, notamment du tiers-lieu, par exemple, hein, que comment on peut créer des espaces plus autonomes pour faire des choses, sans, etc., y compris en milieu rural, enfin, tout ce qu'on disait. Et ça, c'est intéressant parce que l'autonomie, ce n'est pas seulement, justement, on fuit la ville, par exemple, pour aller en Ardèche, s'installer, puis vivre de manière autonome, comme on le faisait en 1970, par exemple, ou comme le font encore maintenant certaines communautés. Ça peut aussi être dans le cadre de la mobilité. Donc c'est un peu tout le... Un petit peu, je résume un peu très vite, là, mais un peu toute la réflexion que moi je peux avoir, c'est en quoi toutes les formes de mobilité aujourd'hui sont des chances peut-être pour notre avenir. Et donc c'est un petit peu ça le challenge de ce terme, c'est de voir tout ce qui peut être intéressant dans une société nomade en gestation. Parce qu'aujourd'hui, je crois que, surtout face à la crise et face à l'ambiance actuelle, on est dans des nouveaux challenges et dans des ambiances qui me paraissent très intéressantes, avec des opportunités réelles à la faveur de la crise, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître. Hein. C'est plus ça va mal, plus peut-être ça peut bouger. Un peu pour revenir à l'expression bouger, hein, puisqu'on parlait de ça avant. Et je veux dire, c'est, là, du coup, c'est vraiment... alors, c'est pas la bougeotte hein, pour bouger, mais c'est plutôt, à un moment donné, c'est l'esprit nomade. Alors, l'esprit nomade, ça peut être dans l'esprit de Kenneth White, par exemple, qui a écrit un bouquin qui parle de ça, et qui a aussi créé la géopolitique. C'est intéressant aussi, hein, la géopolitique. Alors, lui, c'est aussi encore un thème intéressant. Mais je pense que ce qui me paraît fondamental pour aller vite, c'est aussi, puisqu'on parle d'utopie, c'est comment on peut remettre un peu d'utopie dans un univers qui en manque cruellement. Aujourd'hui, ce qui est très difficile pour faire avancer les choses, c'est qu'on n'a plus de rêve. Donc l'absence de rêve, il suffit de voir un peu autour de nous, je ne sais pas, les médias par exemple, ou je sais pas, dans les écoles, c'est qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ne font pas rêver. Ça ne donne pas envie, malheureusement. Alors qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement de choses à faire. Et une fois plus, le fait de faire des allers-retours culturels pour moi, dans des pays comme l'Indonésie, par exemple, où là j'étais en Inde pendant deux mois, là, tout récemment, et je veux dire, je vois que comment j'essaie de voir ce qui se passe ailleurs pour peut-être servir un peu à ce qui peut se passer aujourd'hui, ici, chez nous, maintenant. Par exemple, le fait de voir que dans des endroits où il y a, pour moi, un PNB nettement inférieur au nôtre, où les gens ont du mal à manger deux fois par jour, etc., et les gens sont manifestement plus heureux. Alors, ils ne sont peut-être pas plus heureux dans l'absolu, on est bien d'accord, mais ils ont des perspectives d'avenir, ce qui est de moins en moins évident chez nous. Hein, puisqu'en fait, ce qui me choque quand je vois un balinais dans mon village qui me dit « Ah, c'est marrant, dès que je vois un Français, il ne fait que râler. » Alors je fais « Ben ouais, je veux dire, c'est... voilà, et parce que les Français, aujourd'hui, c'est compliqué. » Et parce qu'ils n'arrivent pas à gérer ça. Et donc, effectivement, donc du coup, je vois un Français qui vient, je lui dis « Comment c'est en France en ce moment ?» Il me dit « On attend. » « On attend. » Alors, vous attendez quoi ?« Nouvel attentat, on attend les élections. » en gros, comme il n'y a pas grand-chose qui va se passer peut-être de bien à l'avenir, ils n'y croient même plus. Quoi. Et c'est très choquant pour un Indonésien, par exemple. Et pourtant, ce n'est pas très drôle en Indonésie. Il y a des courants islamistes, il y a plein de problèmes aussi en Indonésie. Hein. Et pourtant, les artistes, les créateurs, notamment dans les petites villes, les villes moyennes, par exemple, à Java ou à Bali, eh ben, il y a une dynamique absolument, absolument délirante. Du coup, j'ai rencontré très récemment deux, trois Français, un Brésilien, etc., qui me disent « Tiens, j'étais en France, mais là, je ne peux plus. Je ne peux plus parce qu'en France, je ne peux rien faire. » Et ici, je vois une dynamique absolument incroyable en termes de musique, de théâtre, enfin, etc. Et ce n'est pas une question financière. Donc là, on ne parle pas d'argent. Enfin, on parle juste d'avoir envie de faire des choses. Et ça me paraît très intéressant de voir un peu comment dans des espaces, dans des endroits où, par exemple, je sais pas, il y a des milices le soir, où c'est compliqué quand on a, parce qu'il y a de la censure, il y a plein de problèmes qu'on n'a pas chez nous, qui n'existent pas encore, en tout cas, genre en France, et ben, on voit que là-bas, les gens, ils ont plus de courage. Donc ça m'interpelle beaucoup, c'est de voir comment on peut faire pour essayer de créer et de changer un petit peu notre regard, parce que ça me paraît de plus en plus fondamental, à la fois sur les mobilités, mais aussi sur nos manières de vivre. C'est un petit peu ce qu'on disait ce matin. Et c'est là où je pense, à un moment donné, sans rêve, on peut pas avancer, quoi. C'est qu'il faut mettre du rêve de nouveau. Alors, avant, on parlait de Céline, donc du coup, j'ai une citation de Céline qui m'est revenue. Alors, c'est pas le type que j'aime bien citer en général, mais bon, on fait une exception. C'est qu'il disait quand même, de tête, hein, d'ailleurs, c'est « Le voyage peut être utile, il fait Il fait travailler l'imagination. Voilà, ça me revient. Ça, c'est intéressant. Le voyage peut être utile. Il fait travailler l'imagination. Et là, donc, je saute de Céline à mai 68. Donc, l'imagination au pouvoir, c'est la même chose. Donc, quelque part, c'est intéressant. Et le quartier latin, par la même. Et on voit comment... là, il y a quand même quelque chose aujourd'hui. Enfin, on n'est plus du tout là-dedans. Quoi. Ça, et en même temps, tout ce qu'on a dit ce matin sur le tiers-lieu et sur toutes les initiatives, on voit qu'il y a une dynamique. On voit qu'il y a des gens qui ont envie de faire des choses. Et donc, je pense que quelque part, sur les mobilités, puisque là, je suis plutôt sur le terrain du nomadisme et des mobilités, bah, là aussi, il y a des choses à faire. Bah, là, du coup, on n'est pas dans le territoire. On n'est pas, parce que moi, parfois, je trouve que c'est intéressant la déterritorialisation, hein, à Deleuze, à Mille Plateaux, je vous renvoie à ce genre de bouquin. Ou alors, je pense que c'est intéressant aussi de se méfier un petit peu, parfois, de ce que moi, j'appelle le terroir caisse. Quoi, hein. Le terroir caisse, pour moi, c'est un petit peu quand le territoire doit être rentable via le management, puisqu'on parlait de management aussi aujourd'hui, enfin, etc. Donc, je pense que c'est un peu des replis. Et je me méfie beaucoup de certains termes qui ont été très prononcés aujourd'hui, dans le bon sens, une fois plus, je répète, comme le communautarisme et comme la communauté. Le mot communauté a été beaucoup prononcé aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, en milieu local et régional, donc ça veut dire, par exemple, je reprends l'exemple, je suis invité dans une semaine dans les Cévennes, dans une communauté pour pouvoir parler aussi de la formation du voyage. C'est très bien, parce que ça me paraît hyper efficace. Je vois les réseaux Colibri, par exemple, hein, avec Pierre Rabhi, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Mais à l'échelle locale, alors ça va être, je sais pas, de l'agroécologie ou autre chose, et aussi en termes de donc régional et local. Je suis beaucoup plus inquiet et assez critique quand il s'agit de l'international. C'est-à-dire quand je vois des Français, par exemple, qui font des choses en Indonésie, par exemple, hein, je dis ça parce que c'est là où j'habite, donc c'est là où je le vois le plus. Donc quand je vois les tiers-lieux qui s'installent en Indonésie, à Bali, donc les hipsters, hein, on pourrait aller vite, hein, qui gèrent les endroits, ben ça m'inquiète beaucoup plus qu'autre chose. Parce que qu'est-ce que je vois ? Je vois le syndrome que j'appelle le syndrome des ONG qui revient, et surtout le syndrome néocolonial qui est extrêmement présent. Parce que là, on n'est pas dans l'Ardèche, on n'est pas en Corse, on est dans un autre endroit. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce que je vois ? Je vois des communautés. Récemment, je travaille un peu sur ce genre de sujet, et j'ai une vision vraiment critique sur ces communautés de start-upers qui se mettent en branle dans certains endroits, comme à Chiang Mai, comme à Phnom Penh, comme à Siem Reap, il y a plein de hubs comme ça, hein, des hipsters occidentaux européens qui essaient de faire des boîtes un peu partout. Et une fois plus, j'ai vu des gens qui faisaient des choses très intéressantes en France, et ils sont déménagés là-bas, ils ont une autre attitude. Et ça, c'est culturel. C'est qu'on n'est pas pareil quand on est dans un autre pays que le sien. On n'est pas pareil quand on n'est plus chez soi. Et quand les choses sont moins chères, quand l'ambiance est différente, la nourriture est différente, la langue est différente, je sais pas moi, les filles sont différentes, enfin, tout est différent. Hein. Donc à un moment donné, on a d'autres attitudes, d'autres comportements. Ça peut créer beaucoup de problèmes et beaucoup de choses néfastes. C'est un peu ce que moi je vois. Là, je prends l'exemple, notamment la dépolitisation. Ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant à étudier. C'est la dépolitisation des jeunes Français quand ils s'installent pour créer des boîtes, par exemple, à Phnom Penh ou en Indonésie. Tout ça veut dire la manière dont, d'un seul coup, on n'est plus les mêmes citoyens. Hein. Du coup, les droits de l'homme qu'on trouve être très, très intéressants, ici, on s'en fout un peu parce qu'on est dans un pays qui est un peu une dictature et tout ça. Donc, on ferme les yeux. Et ça, c'est très, très problématique pour moi de voir tout le temps ce genre de choses. L'autre exemple, c'est quand je parle de dépolitisation. Je parle récemment, il y a des nouvelles communautés de hipsters qui s'installent au sud de Bali. Il y a beaucoup de Français qui vont s'installer à Bali. Hein, donc, je suis très critique envers ça parce que moi, souvent, ils m'envoient des mails pour que je les aide et tout. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'ils restent à la maison, enfin, qu'ils fassent des choses en France. Quoi. C'est ça que j'aimerais bien qu'ils fassent. Et je veux dire, et donc, ce que je vois, ben voilà, ils sont tous ensemble, ils ont privatisé une plage, ils achètent tous des chiens maintenant quand ils restent quelques mois. Donc, ils ont tous, le soir, ils se baladent avec leurs chiens. Souvent, ils ont le smartphone ou un Mac avec eux. Et puis, ils se baladent, ils ont tous le même look, ils sont clonés complètement. Et en fait, les autochtones, les locaux, les balinais, parce qu'il y en a encore quelques-uns quand même, ben, ils sont très critiques envers ça. Et donc, quelque part, on n'est pas du tout là dans le vivre ensemble. Hein. Enfin, on n'est pas du tout dans le côté hyper sympa. Enfin, ça, c'est mon point de vue, en tout cas. Là, une fois plus, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais je dis de ce que je peux voir dans beaucoup d'endroits, hein, comme par exemple Siem Reap, Phnom Penh, Bali, par exemple. Et donc, quelque part, il faut aussi avoir cet esprit critique. Il ne faut pas seulement dire que c'est génial parce qu'ils font des choses. Quoi. Moi, ça me gêne un peu quand je vois ce qu'ils font, parce qu'ils font des choses qu'ils ne feraient jamais en France. Et ça me pose un problème quand j'analyse un petit peu ça. Enfin, c'est juste pour montrer aussi que malgré toutes les bonnes choses qu'on a dit aujourd'hui, il y a aussi des choses parfois qui me... Une fois qu'on est à l'international, parce que en plus je ne dis pas du tout la même chose en France. En France, je suis beaucoup plus, pour moi, d'accord avec ce qui a été dit aujourd'hui, parce que pour moi, ce n'est pas du tout pareil. Et c'est là où c'est intéressant le rapport la différence culturelle, tout simplement. Hein, parce que c'est, je pense qu'on a aussi ce rapport-là qui est très important. Donc je reviens juste un petit peu à mon histoire de changer notre regard sur les mobilités et le vivre ensemble. Ouais, je vais un peu plus vite, c'est ça ? D'accord. Donc c'est juste, voilà, je pense que quelque part, qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi un peu aujourd'hui pour bousculer nos habitudes, bousculer notre crise qui est quand même extrêmement croissante en ce moment, c'est qu'à un moment donné, il y a oser, refuser, bouleverser, je pense. Pourquoi je donne trois petits exemples ? C'est vivre à contre-courant, peut-être mettre de la résilience et de la résistance, hein, un petit peu de la résilience, parce que c'est plutôt à titre individuel, la résistance va plutôt être à titre collectif. Je pense que de plus en plus, on va aller vers là. Et je pense qu'une fois plus, les tiers-lieux participent à cela également, hein, en France, ce qu'on disait ce matin. Et je pense que l'autonomadie, je n'ai pas trop le temps de développer, mais participe un petit peu à cette réflexion philosophique. Alors après, il faut avoir du courage. Voilà, ce qui manque énormément aujourd'hui, c'est le courage. Un gros problème qu'on a en France, parce qu'on a peur, et parce qu'on est aussi dans un... Et après, ça revient dans la culture. Hein. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le monothéisme et dans plein de problèmes qu'on peut avoir qui sont liés à notre culture, à notre fond culturel, hein, notre background. Mais c'est très important. L'histoire des réfugiés est un excellent exemple. Je veux dire, avoir peur à ce point-là, aux yeux de l'histoire de nos petits-enfants, dans, je sais pas, dans 50 ans, de comment on traite les migrants et les réfugiés, c'est scandaleux. Quoi. Aujourd'hui, ça paraît tellement difficile d'accueillir quelques dizaines de réfugiés dans n'importe quel village en France, parce qu'il y a tout de suite une manif du Front National et d'autres, alors qu'en fait, c'est quand même... Bon, c'est un exemple qui, aux yeux de l'avenir, pose un problème. Si on n'est pas capable de recevoir des gens, c'est un peu compliqué de faire la promotion du vivre ensemble. Ça me paraît quand même... c'est juste un exemple, mais je pense que là aussi, il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir un autre discours, mais qui est très peu entendu. Pourquoi très peu entendu ? Parce qu'une fois plus il y a la crise, plus il y a du repli, plus on se réfugie, et plus il y a avant, on parlait de soit on travaille avec l'autre, soit on est contre l'autre. Hein, vous rappelez tout à l'heure ? Et là, c'est ça le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est que ça devient de plus en plus difficile. Les incivilités diverses et variées, que ce soit contre les flics ou contre les profs, ces derniers jours, par exemple, vous en avez tout plein, mais c'est comme ça aussi dans le bus, dans le tram, dans le train, partout. Je veux dire. Et c'est quelque chose qui est réel, qu'on voit. Et quand moi, je viens justement d'Indonésie, par exemple, ça me choque. Je suis revenu il y a deux jours, c'est pour ça que ça me choque encore quand je vois comment, hier, dans le train, quand je suis arrivé, quelqu'un, il y a deux filles qui rigolaient et quelqu'un leur dit, s'il vous plaît, arrêtez de rigoler. Ça, c'est intéressant. Je veux dire, dans quelle société on est, quand deux personnes rient, ça devient un problème. C'est un exemple, mais il y a des petites choses comme ça que je trouve assez problématiques dans le vivre ensemble, tout simplement, ou dans l'hospitalité également. Quoi. Je vais un peu plus vite, parce qu'il faut que j'aille plus vite. Dans les cultures et les médias, c'est un peu pareil. J'ai vu que là, à Poitiers, il y a Laurent Mauduit qui est invité dans deux semaines, là, à la librairie, j'ai vu La Belle Aventure. Ben, c'est très intéressant. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Mabas sur l'information, je vous conseille de lire, qui montre un peu comment on est informé aujourd'hui en France. Et ça montre aussi un autre problème. C'est qu'à un moment donné, il faut se battre à ce niveau-là également, parce que sinon, ça peut pas marcher. L'idéologie du travail, on a parlé ce matin un petit peu du travail, c'était quand même très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas repenser entièrement, de la même manière qu'il faut le faire pour la démocratie, hein, parce que la démocratie est extrêmement épuisée en France, et en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas justement, pour reconstruire la démocratie, il faut peut-être partir de zéro, enfin partir de nouvelles valeurs, etc. Parce qu'il y a tout à refaire. Hein, je pense qu'il ne faut pas tellement penser, il faut plutôt repenser quoi, les choses aujourd'hui. Penser, P-A-N-S. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait faire un boulot là-dessus. Je prends l'exemple du travail. Bernard Stiegler avait fait des petits bouquins vraiment très intéressants que je vous conseille aussi de lire, qui s'appelle « L'emploi est mort, vive le travail ». C'est un truc, le salariat est quand même appelé à mourir, quoi. Donc à un moment donné, il faut se rendre compte à l'évidence, quoi. Il a beaucoup travaillé sur la robotisation, l'autonomisation, etc. Mais c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, la société qui se prépare, il n'y a jamais eu autant de travail. Et par contre, il n'y a plus d'emploi. Donc à un moment donné, comment on fait ? Et il travaille beaucoup là-dessus. Je trouve ça très intéressant de lire ce genre de bouquin. Parce que ça va un peu à contre-courant quand on voit encore des gens qui nous parlent de croissance et des choses comme ça, quoi. C'est complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on n'a pas le temps de développer. L'autre chose aussi, parce que je vais un peu plus vite du coup, c'est Small is Beautiful. Ouais, une petite phrase en anglais. C'est quand même intéressant. Parce que ça revient aussi dans les années 70. Mais là, c'est pareil. À l'heure aujourd'hui, on a une sorte de retour, un petit peu, je dirais, des valeurs refuge. Hein, qui serait plus proche du travail, de la famille, de la patrie, malheureusement. On le voit tous les jours, mais également un nouvel âge des impérialismes et des empires. Hein. Regardez Poutine, regardez Erdogan, regardez Sisi, etc. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même absolument délirant comment les grands pays se réfugient derrière ces nouveaux nationalismes. Ben, c'est quand même marrant de voir pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir du côté d'autres pays, d'autres modèles, qui soient beaucoup plus alternatifs. Alors je vais aller très vite, mais c'est quand même intéressant, c'est entre guillemets petits pays. J'en cite juste quatre, plus pour la forme. Hein. Vous avez la Finlande. La Finlande, c'est super intéressant ce qu'ils font. Je veux dire, sur l'éducation, par exemple, c'est absolument top. Quand on voit aujourd'hui l'éducation en France, ça marche quand même pas des masses, quoi. Et je veux dire, il y aurait énormément de choses à glaner de ce côté-là. L'autre exemple, c'est l'Irlande. à l'Irlande, c'est pour la démocratie participative, la place des femmes. La place des femmes, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la dégradation qu'il y a, pas seulement en Arabie Saoudite ou chez les salafistes, mais aussi chez nous. Hein. Donc là aussi, c'est très intéressant. L'Uruguay, bah, moi je suis passé un peu de temps quand il y avait encore José Mujica, hein, donc le président, vous avez peut-être entendu parler du président uruguayen qui était quand même un modèle assez intéressant. C'était le premier à accueillir des Syriens, par exemple. Hein. Tout le monde disait, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? C'est le premier, il a légalisé le cannabis pour éviter les problèmes de trafic, etc. Il a fait plein de choses, il a dit, voilà, il faut faire les choses. Mais après, là, il n'est plus au pouvoir, il a laissé la place à son dauphin. Mais il dit comme une phrase, j'aime bien le citer pour ça, il dit, seuls sont vaincus ceux qui ont cessé de se battre. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a dans notre société aujourd'hui. C'est qu'on a un peu cessé de se battre, quoi. Ou alors, on a tellement peur qu'on attend. Comme je disais tout à l'heure, on attend un peu trop. Et du coup, on n'est plus tellement sur la résistance, ni sur la résilience, ni sur toutes ces choses-là dont je n'ai pas eu le temps de développer. Après, il y a le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un autre exemple. C'est plutôt pour le fun, quoi. Pour le côté le bonheur national brut, quoi. Mais là aussi, on n'arrête pas de nous parler de bonheur. Vous avez, je ne sais pas moi, Frédéric Lenoir fait un bouquin tous les 6 mois sur le bonheur. Aujourd'hui, on n'arrête jamais autant de parler de comment être heureux et tout ça. Mais je veux dire, moi, je connais, je ne sais pas, à Mulhouse, il y a des Indiens qui viennent pour réapprendre aux Français à sourire. C'est intéressant. Donc, il y a des stages, comment réapprendre à sourire, quoi. Ça devient compliqué quand même, on est à ce stade-là, je veux dire. Et c'est bon, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire comme ça, mais je pense que c'est intéressant de travailler là-dessus. Alors, comme j'ai encore 2 minutes, quoi.
Je crois que je vais être obligé de t'arrêter, à part si tu as une phrase peut-être de conclusion.
Mais juste la vidéo, là, j'ai encore la vidéo, là, qui dure 1 minute, là, ça va.
Encore une vidéo d'une minute, alors. Ah ouais. Parce que Franck est en plein décalage horaire, mais comme ce n'est pas notre cas.
Ouais. D'accord, donc je peux.
Allez, va pour la vidéo.
Allez, comme ça, c'est juste pour. Ça dure 1 minute, hein, c'est vraiment pas long. Faut que j'éteigne celle-là. Attends. Alors. Ah là, c'est le projet que je fais en fait. Ça vous donne un peu aussi. Le projet que je fais à Bali chez moi. Hein, sur la bibliothèque du village. C'est une action, un exemple d'action, quoi, en fait. Hein. Aller sur le site, hein, le croisé route, si vous voulez plus d'infos sur différentes choses que je peux faire. Et ça, c'est un exemple en fait de projet que je trouve assez qu'on essaie de faire.
Merci. Alors, il y a les sites internet et il y a aussi les blogs et les associations. Donc voilà, je vais vous proposer de partager la parole sur la table ronde. Et puis s'il y a d'autres points à évoquer tout à l'heure, de toute façon, il y aura la partie questions pour éventuellement développer d'autres questions. Merci.
Okay. Bonjour à tous. Moi, je suis Florian Caroubi, j'ai 25 ans. Je pense que c'est un bon moment pour moi d'intervenir parce que je pense que je suis un peu la pratique de ce que monsieur Franck a illustré, puisque je suis à la fois étudiant en master 2 de management international à l'IE de Poitiers et à la fois président d'une association culturelle qui veut essayer d'ouvrir les esprits sur les cultures du monde. Et à la fois, j'ai participé à une formation en ligne du mouvement Colibri. Donc, j'ai vraiment toutes les facettes. Pour aller plus loin sur mon parcours et pourquoi j'ai créé cette association culturelle du nom de Cultinera, J'ai deux passions, c'est la danse traditionnelle, les traditions. Je fais de la danse traditionnelle depuis que je suis tout petit, des danses traditionnelles de toute l'Europe. Et je pense que c'est aussi un bon moyen de découvrir la culture des autres par le style de la danse, le rapport à la terre, puisque pour danser, on utilise les pieds. Et ma deuxième passion, c'est le voyage. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Le voyage, donc ça fait à peu près plus de 10 ans que je voyage par divers moyens, des voyages scolaires, des colonies de vacances, mais aussi des voyages d'études. J'ai étudié par exemple les populations nomades et sédentaires, j'ai fait un comparatif au Burkina Faso, ou encore j'ai créé mes propres voyages pour me donner une autre dimension et essayer d'aller encore plus loin dans le voyage. Et dans cette démarche-là, j'ai voulu, petit à petit, je me suis vu joindre mes deux passions, donc c'est-à-dire les traditions et le voyage, aller à la rencontre des traditions chez l'autre, dans d'autres pays, pour essayer de comprendre où vont les traditions, quels sont leurs devenirs et quelles sont-elles, quoi, pour en savoir plus. Et donc, petit à petit, dans cette démarche, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était la notion de partage. C'est-à-dire que voyager, c'est bien, voyager pour soi, rencontrer, s'épanouir, s'enrichir, c'est formidable. Mais ce que j'avais envie, c'était aussi le partager avec d'autres. Parce que quand je rentrais de voyage, souvent, beaucoup de personnes me posaient des questions, m'interrogeaient sur ce que je faisais, et je voyais vraiment un intérêt pour ce que je faisais. Et parfois, surtout, une envie peut-être de faire la même chose, mais une crainte. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas aller plus loin dans cette démarche de partage et de communication, et encourager les gens, les jeunes, les moins jeunes, de dépasser leurs propres barrières, leurs propres frontières. Parce qu'aller chez l'autre, c'est traverser parfois une frontière, mais c'est aussi traverser sa propre frontière. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai créé en février 2015, l'association Cultinera, qui est une association pour faire découvrir les cultures du monde, donc comme je l'ai dit, qui actuellement, on est simplement deux dans l'association, donc l'activité n'est pas forcément très très intensive, mais pour autant, on a deux activités. Donc la première, c'est la rédaction et la publication d'articles culturels sur les cultures du monde, sur des points spécifiques. Alors je peux vous donner quelques exemples. On a écrit des articles sur des peuples méconnus, comme le peuple des Hutsul entre l'Ukraine et la Roumanie, ou encore l'écriture Nyushu, qui est en train de mourir en Chine. C'est une écriture spécifiquement féminine. Ou un dernier exemple, dans le plutôt culinaire, on a écrit sur l'arepa. C'est donc un mets dégusté principalement en Colombie, mais aussi au Venezuela, qui va accompagner tous les plats donc au quotidien. Et la deuxième activité, ça va être d'écrire ce que l'on a appelé des carnets de voyage. Donc lorsque l'on voyage, c'est de communiquer sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on vit lors de nos voyages, et de l'agrémenter d'informations culturelles, historiques, et ainsi de suite. Et effectivement, donc l'activité a à peu près un an, et on voit que l'intérêt pour notre blog est croissant. On a de plus en plus de personnes qui viennent le visiter du monde entier. Alors pour l'instant, c'est principalement en français. On a deux articles actuellement en espagnol, mais on aimerait l'étendre à d'autres langues, puisqu'on voit vraiment un intérêt à l'international. Et on cherche aussi d'autres personnes qui voudraient écrire sur les cultures du monde pour partager ce qu'ils ont envie, leur propre culture, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie d'approfondir comme sujet, puisque quand on écrit un article, même si on n'a pas de prétention professionnelle et que c'est simplement amateur, on a envie que cet article amène l'écrivain, l'auteur, à faire des recherches et à aller approfondir ses propres connaissances, les partager et ainsi avoir un retour dessus. Parce que je pense que ça, c'est vraiment intéressant quand on voyage et qu'on communique dessus, on a le retour de l'autre, on a la critique positive et négative, et c'est très très formateur pour nous d'avoir ce retour, de nous remettre en question et donc d'aller plus loin, d'améliorer ou pas en fonction de ce que l'on pense, puisque on garde quand même une idée de ce que l'on veut faire. Et donc suite à cette association, on s'est vu proposer la participation à beaucoup d'événements, notamment des festivals comme le festival de Globetrotters de Paris, Massipalizo plutôt, et ou sinon aussi le festival des expressifs que vous devez certainement connaître, qui a eu lieu la semaine dernière, il y a 2 semaines à Poitiers. Et donc dans ce cadre-là, on a créé une exposition qui est toujours en cours au CRIJ, et dans lequel on retrace notre voyage, puisque l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire une année de césure dans mes études. J'ai arrêté 1 an les études pour me consacrer à cette association. Et j'ai réalisé un voyage sur les traditions pendant 4 mois, et j'ai traversé 14 pays. Et donc, on retrace ce voyage dans l'exposition sous 7 thèmes différents. Et donc, là aussi, j'ai fait une présentation du voyage, la démarche, pourquoi, comment m'est venue l'idée, qu'est-ce qu'on recherchait, comment on retrouvait l'information, parce que trouver des traditions, c'est quand même plus difficile que de prendre un guide et trouver des monuments, une église ou autre, hein. Le patrimoine culturel immatériel est beaucoup plus difficile à atteindre que le matériel. Et ça a été très fort d'expérience pour moi, ça a été un grand enrichissement de faire ce voyage, puisque j'ai eu l'occasion de collecter, d'enregistrer des chants dont je ne soupçonnais pas l'existence, par exemple, qui se transmettent de génération en génération. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, en Bosnie-Herzégovine, il y a un chant polyphonique qui se chante contre hommes qui s'appelle Ganga, qui dure approximativement 30 secondes et qui se chante complètement spontanément autour d'un verre ou d'un repas. Et donc ça, c'est vraiment la démarche de Cultinera, de faire connaître, ouvrir les yeux sur une réalité, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel on est, qui s'uniformise à cause de l'international, il y a aussi une diversité qui passe parfois à l'as, et on aimerait vraiment faire ouvrir le regard, les esprits sur cette diversité, en Europe notamment. Et un autre point qui me semble aussi essentiel, c'est que quand je parlais de barrières, je pense que tout le monde a ses propres barrières et a peur de les dépasser, et c'est là où je veux montrer que oui, on a peur, d'accord, mais pourquoi s'arrêter à cela? Et quand on a créé notre voyage, donc j'ai dit qu'on a traversé, j'ai traversé 14 pays, et ces 14 pays, c'était entre l'Italie et l'Iran. Donc vous l'avez entendu, il y a eu l'Iran dedans, et à chaque fois qu'on en a parlé, c'était beaucoup d'interrogations. Pourquoi l'Iran? Mais vous êtes sûr? La situation politique là-bas, etc. Et ce sur quoi je voudrais faire ouvrir les yeux aujourd'hui, c'est, de manière générale, c'est l'information. Il faut être vigilant, et surtout je pense auprès des jeunes, parce que je pense que les médias, la télévision apportent beaucoup de négatifs là-dedans, puisque les gens se contentent de ça, se cantonnent à ça, simplement la vision que donne la télévision. Et je pense que chercher l'information par soi-même est beaucoup plus important quand on veut aller, par exemple, en Iran. Moi, j'ai fait, je suis allé voir des gens qui étaient originaires de là-bas. Je suis allé rencontrer des gens qui avaient voyagé là-bas. Mais j'ai aussi appelé les ambassades françaises et étrangères qui résident dans ces pays-là pour avoir une vision beaucoup plus concrète du territoire que je voulais approcher. Et donc c'est en cela qu'on se construit sa propre information, et après c'est à nous de décider si on veut aller ou pas plus loin, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que voilà, l'information, elle se consomme pas simplement, elle se crée. Je pense que j'ai fini.
Alors, peut-être que en complément de ton exposé, on peut prendre à chaud une réaction de l'anthropologue professionnel sur l'anthropologie amateur créée par l'association.
Aucune prétention de ma part, mais je trouve ça très très bien ce que mon voisin il fait, quoi. Et surtout, qu'est-ce que je trouve super bien, c'est non seulement ce que tu fais, quoi, les différentes actions, mais surtout d'avoir l'énergie, la force et l'envie de le faire, quoi. Parce que c'est ça que je trouve vraiment aujourd'hui super génial, c'est d'avoir cette niaque, en fait, hein. C'est ça le mot, hein. C'est que d'avoir en fait envie vraiment encore aujourd'hui de changer le monde, quoi, tout simplement. Moi, ce que je dis toujours, il y a deux phrases que je supporte pas, du coup, ça, je fais un petit peu juste une digression, que parfois je disais ça à des journalistes, c'était... Je sais pas, je peux pas me résoudre à dire, par exemple, la phrase terrible que je trouve, c'est on n'a pas le choix. C'est une phrase que vous entendez souvent, ça. Moi personnellement, je pense qu'on a toujours le choix. Je veux dire. Et si vous êtes, voilà, si vous êtes, je sais pas moi, à l'automne 1940, vous avez le choix aussi, à un moment donné, d'aller vers là ou vers là, quoi, par exemple. Et vous avez toujours le choix à un moment donné. Simplement, il faut avoir un peu de courage pour avoir du choix, pour faire prendre des décisions qu'il faut. Et l'autre est exemple aussi, c'est voilà, l'autre exemple, phrase aussi que je supporte pas trop, c'est parfois ce qu'on me dit, c'est ah, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce genre de conneries, quoi? Je veux dire, dans la vie, on fait ce qu'on veut. On se bat pour faire ce qu'on veut. Si vous faites pas ce que vous voulez, c'est que vous êtes un larbin, vous êtes asservi. Enfin, je sais pas, il y a un problème quelque part. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel. Alors, moi, j'ai démissionné de l'université, j'ai démissionné de plein de boîtes, je bosse pour Michelin. Dès qu'ils me font chier, j'arrête. Je passe à autre chose. Et où est le problème? À un moment donné, je pense qu'il faut avoir un peu de courage aujourd'hui. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Il n'y a que moi qui dois l'assumer. Mais je ne regrette pas le prix que cette liberté me donne. Ça ne me donne pas beaucoup d'argent, mais ça me donne énormément de bonheur et de plaisir. Après, c'est des choix. Le but, c'est de les assumer. Mais c'est vrai que je ne suis pas d'accord quand je vois des jeunes ou des moins jeunes qui me disent tout le temps, par exemple, je suis des profs de fac, hein, j'ai plein de collègues comme ça, hein, qui sont déprimés ou en burn-out, hein, et qui me disent toujours, j'en peux plus, ces connards avec qui je travaille. Mais arrête, mais où est le problème? Et j'en connais beaucoup. Donc à un moment donné, je veux dire, si les gens, c'est la servitude volontaire, hein, la Boétie, enfin vous avez tout le monde a bossé là-dessus. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut se prendre en main. Et moi, l'Asie, par exemple, ce que ça m'a beaucoup offert, grâce au voyage, et c'est là où je pense que ça va t'apporter énormément, quoi. c'est que je pense que ça vous amène tout simplement à douter. Comme je dis toujours dans une des phrases de mes bouquins, c'est que le voyage commence là où s'arrêtent nos certitudes. Et donc je pense que c'est ça qui me paraît intéressant, c'est qu'à un moment donné, si on n'est plus capable de douter, si on est toujours sûr de soi-même, etc., c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, donc à un moment donné, il faut avoir la capacité de se remettre en cause. Et c'est valable pour les idées aussi, hein, c'est valable pour la politique, c'est valable pour, enfin, pour plein de choses, en fait. Si on n'est plus capable de penser, et voilà. Aujourd'hui, vous avez même un Premier ministre qui dit que, je sais pas moi, comprendre, c'est déjà accepter ou excuser. Enfin, je sais pas, vous voyez, si on dit des choses comme ça, c'est plus possible, c'est qu'on n'a plus le droit de penser. C'est-à-dire qu'il faut, cesser de penser de manière autonome et libre. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui dans la démocratie française, entre autres, mais je pense que c'est mondial, hein, c'est, comme on disait, on en a parlé hier. C'est pas du tout contre la France que je dis, hein, parce que là je viens de passer 2 mois en Inde et je suis assez atterré de voir le changement qu'il y a eu en Inde, parce que j'étais il y a quelques années, puis depuis 2 ans il y a un gouvernement d'extrême droite hindou qui est au pouvoir, et on voit le changement que ça a donné, on voit comment les gens sont maintenant. J'étais au Brésil il y a un an, j'étais il y a 6-7 ans, j'ai travaillé là pendant un moment, ben, je veux dire, on voit là, aujourd'hui ce qui se passe, vous connaissez l'histoire avec Lula, avec tout ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est dramatique au Brésil, c'est pareil. Il y a un repli en arrière absolument délirant. Donc, ce n'est pas seulement la France. Hein. Je ne suis pas contre la France quand je dis tout ça. Simplement, on voit partout dans le monde, et je ne vous parle pas de la Turquie, de Poutine, etc. Mais je veux dire, voilà, et je pense que partout, il faut ouvrir les yeux. Je veux dire, je viens de passer 8 heures il y a 2 jours à Jeddah, en Arabie Saoudite, en transit. Et je veux dire, il suffit de regarder autour de soi pour soit on a envie d'être là, soit on n'a pas envie d'être là. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être là. Je veux dire, mais on peut en discuter après. Mais je pense que c'est important à un moment donné de dire les choses, quoi. Et si on ne peut plus rien dire,
Ben dans ce cas-là, on attend la fin du monde. C'est un peu malheureusement ce que je vois quand je rentre à Strasbourg, quand je rentre, je vois autour de moi, ben, les gens attendent tous la fin du monde. C'est pas une solution, quoi, je veux dire. C'est, voilà. Enfin, désolé d'être un peu brusque, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. En tout cas, c'est pour ça que je salue vraiment ce genre d'initiative, parce que par exemple, il y a quelques années, on a créé à Albertville, dans le cadre du Grand Bivouac, une université du voyage. Et je te conseille vraiment d'aller les contacter, serait-ce que pour info, quoi. Et puis de voir si tu peux pas faire partie des résidents, si ça t'intéresse, cette villa du Grand Bivouac, qui sont en fait des étudiants qu'on a sélectionnés uniquement à la pêche, quoi. Donc il y en a qui ont des doctorats, il y en a qui ont fait le tour du monde à 14 ans, il y a de tout, hein. Mais l'essentiel, c'est des gens qui ont une pêche pas possible, parce qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont vraiment la pêche, quoi. Malheureusement, on les écoute pas, on veut pas trop les entendre, et en plus, on est dans un pays qui est un peu vieux, qui est un peu conservateur, et qui aime pas beaucoup ces jeunes, quoi. Donc ça crée un problème, ça, en termes de développement d'une démocratie. Et voilà, et je suis très choqué quand je vois d'autres démocraties beaucoup plus balbutiantes, hein, c'est-à-dire comme l'Indonésie, où en fait on donne de la chance aux jeunes, quoi, même si c'est beaucoup plus dur. Et ça, enfin, l'avenir, c'est peut-être pas nous, c'est les jeunes, quoi. C'est aussi ça que je pense, à un moment donné, il faut quand même évoquer ça comme problème, quoi. Enfin, je veux pas trop rentrer dans des discussions un peu, mais ça, c'est quand même des sujets qui sont intéressants. Je veux pas trop monopoliser. En tout cas, bravo.
Alors, on va peut-être terminer le tour de table ronde avec le centre socioculturel du pays mauséen. Et ensuite, on fera un temps de parole avec la salle. Gardez vos questions à l'esprit, elles seront pas oubliées.
Bonsoir. Pour être plus modeste que le Grand Bivouac, malgré tout, c'est une de nos réussites que d'avoir fait une séance collégienne où les voyageurs, après avoir présenté un film, engagent les jeunes à aller au bout d'un projet, que ce soit le voyage ou autre chose, à leur montrer qu'eux ont bien réussi, qu'ils ne sont pas toujours partis de grand-chose et qu'ils peuvent... Et qu'on peut toujours, quoi qu'en disent les adultes, on peut toujours essayer d'aller au bout. Voilà, c'est vrai que c'est la philosophie. Voilà, donc nous représentons le Festival de l'Aventure, Festival René Caillé de l'Aventure, de la commune de Mauzé-sur-le-Mignon, qui est située en Deux-Sèvres, entre Niort et La Rochelle. Alors, bon, on ne va pas s'éterniser sur le programme, et nous avons des plaquettes, il est sur notre site internet. En revanche, bon, on va parler de l'origine. Il y a beaucoup, l'aventure est à la mode, il y a beaucoup de festivals qui se créent. Le nôtre a 20 ans, va fêter sa 20e édition, et il est dû à l'existence de René Caillé, l'explorateur qui est né à Mauzé-sur-le-Mignon. René Caillé qui est parti, voilà, 200 ans en Afrique, et qui... serait, on dit bien serait, toujours des inconnus, le premier Européen à être sorti vivant de la cité de Tombouctou, en avoir rapporté les documents secrets et en avoir eu après le Grand Prix de géographie. Voilà, donc René Caillé, qui est souvent un modèle pour les voyageurs, puisqu'il était parti par défi, il était parti lui aussi dans l'idée du rêve, hein, il n'était pas obligatoirement dans l'esprit de la colonisation, c'était pas ça. Et la commune de Mauzé a eu le devoir, après sa mort, de célébrer tous les ans d'exercer une manifestation, que ce soit des manifestations avec des autorités, également des manifestations festives que les gens des environs appellent la fête à Caillé, hein, sans toujours savoir exactement à quoi ça peut correspondre. Donc depuis 1997, le centre socioculturel s'est investi dans cette manifestation en créant le Festival de l'Aventure. Au départ, on avait appelé ça le Festival de l'Aventure individuelle, puisqu'on était quand même dans le lien avec René Caillé, qui était parti seul. Ça a changé, le festival a évolué. Maintenant, on a changé de période de l'année, donc on l'appelle Festival René Caillé de l'Aventure. Bien sûr, c'est pour valoriser... Il y a René Caillé à la base, hein, c'est bien une valorisation du patrimoine local. Et à l'occasion de cette manifestation, nous essayons de faire connaître et de valoriser toutes les créations qui vont tourner autour, je dis bien autour et au sens large, hein, de René Caillé. Ça peut être un livre sur, sur lui, ça peut être des livres sur Tombouctou, puisque nous sommes étroitement liés avec Tombouctou. C'était l'année dernière la projection de... par des journalistes de Paris du livre sur du film sur les manuscrits de Tombouctou, hein. Donc ça nous permet quand même de connaître l'histoire présente. C'était récemment la présentation par le directeur du musée de la marine de Rochefort, la présentation du film La véritable histoire du radeau de la Méduse, faisait partie de la flotte de René Caillé. 4 bateaux sont partis. Lui était sur la Loire, qui est arrivé à bon port. La Méduse s'est arrêtée en route, et évidemment, comme tout le monde le sait, dans les bancs d'Arguin. Et enfin, ça nous permet aussi, ça permet d'avoir une meilleure idée encore, de mieux appréhender l'histoire de l'époque. Hein. On ne reste pas fixé non plus sur la personnalité de René Caillé. Voilà. Donc il y a toujours quand même des spécialistes, des gens qui sont allés sur ces traces. Mais surtout, maintenant, notre objectif est de nous intéresser aux successeurs de René Caillé et bien sûr aux explorateurs, aux aventuriers d'aujourd'hui. Hein. Donc au départ, nous avions organisé une manifestation d'une journée. Maintenant, nous avons 3 journées où nous invitons les voyageurs. Alors ces voyageurs, ça peut être les grands voyageurs, ce qu'on appelle les grands voyageurs, des personnes qui peuvent avoir une célébrité, hein, qui vont venir présenter leurs films, qu'on peut voir à la télévision, hein, mais à qui on demande de rester en général le week-end. L'acceptent. Et nous sommes centre socioculturel, éducation populaire aussi. L'objectif était aussi de créer des liens entre ces personnes, des liens étroits, tout au long de la journée, hein, soit au niveau de la présentation que des repas, et de pouvoir... Que les gens puissent échanger librement avec eux et puis, ce qu'on disait, donner du rêve, hein, donner des modèles. C'est aussi les voyageurs locaux. Hein, les voyageurs locaux sont à l'honneur, c'est important, quelle que soit la modestie de leur voyage, hein, de leur entreprise. C'est important de les valoriser, mais c'est important aussi de montrer aux gens que tout le monde peut partir. Hein, ce que vous disiez tout à l'heure, de briser des freins. Voilà. C'est aussi les jeunes par l'intermédiaire de notre bourse de l'aventure. Hein, grâce à des entreprises locales, nous donnons chaque année une bourse de l'aventure à, hélas, une seule équipe, c'est pas toujours facile de se départager, à un jeune ou un groupe de jeunes qui a le projet de partir pour, dans le cadre de ses études ou dans le cadre de projets scientifiques ou littéraires, mais c'est sur l'ensemble et sur notre site internet. Maintenant, donc, un jeune de la région, de la grande région. Voilà.
Donc, ça, c'était par rapport aux jeunes. J'insisterai donc surtout, bien sûr, nous ne sommes pas des grands voyageurs. Hein. Nous ne sommes pas là pour échanger comme ça se fait, c'est très bien, hein. nous invitons ABM, nous ne sommes pas des grands voyageurs, nous sommes des habitants, et une vingtaine au cours de l'année a préparé cette manifestation. On peut au moins doubler ponctuellement au moment de la manifestation qui aura lieu en novembre, et c'est surtout, en ce qui nous concerne, la convivialité qui a de l'importance autour d'un patrimoine commun. Donc maintenant où les gens se sont bien appropriés, voilà, la convivialité, puis l'envie de faire partager ce que vous disiez, parce que c'est important, à notre époque, peut-être même plus qu'il y a 20 ans, d'apporter des valeurs, d'ouvrir sur l'autre, d'ouvrir sur un autre monde. Les voyageurs viennent nous raconter quand même un autre monde, hein, et d'autres vies, d'autres soucis, d'autres joies, tout ce que vous disiez. Donc c'est important que les habitants puissent l'entendre et échanger à ce sujet. Voilà, on ne peut pas le faire seul, bien entendu, hein, c'est un
Moscou. C'est une organisation. Et Céline, qui est vice-présidente du centre, va nous parler des différents partenaires, tant à l'interne qu'à l'externe, que nous avons, les partenariats qu'on a bâtis au cours des 20 ans.
C'est bien de travailler avec les écoles, quoi, justement, aussi, avec les écoles et avec les jeunes de toutes les manières. Quoi.
Oui. Donc, bonsoir. Effectivement, avant tout, pour le centre, il s'agit de faire le lien entre les gens, que les gens se rencontrent, qu'on découvre qu'il y a une diversité, parce qu'on est aussi dans un petit village. On est en pleine campagne et le centre social, en fait, couvre 11 communes. Donc, on a à peu près 900 adhérents. Et donc, le festival permet de sortir de son quotidien, de créer des liens, des partenariats aussi. Donc avec les associations locales, avec tout le potentiel qu'on peut avoir. Par exemple, le syndicat de pays, qui est un regroupement des communes de notre territoire, propose en avant-première du festival un film gratuitement à destination des familles, mais aussi des enfants du centre socio-culturel. Donc c'est que des événements comme ça qui vont se créer naturellement, parce que les gens nous connaissent, ils savent qu'on est là, et ils savent qu'il y a cet événement qui existe depuis 20 ans, et c'est facile. Et comme nous ne sommes pas des grands voyageurs, on est présents. On est là sur notre commune, en fait, sur notre territoire, et il y a cette ouverture qui est présente.
Vous savez, maintenant, vous pouvez être grand voyageur tout en restant sur place.
Voilà. Mais je vais un peu peut-être sortir de ce qu'on pensait dire, mais pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, c'est que je suis devenue vice-présidente parce que c'est important de valoriser le potentiel chez les gens. J'en ai aussi assez d'entendre les gens dire « je peux pas ». Voilà. Donc, en fait, en créant le festival toutes les autres activités qu'on peut faire au sein du centre, nous valorisons autre chose. Et c'est que ça qui ressort de tous ces événements. Et donc, c'est une richesse, c'est un vrai partage. L'avantage aussi, c'est qu'on a les voyageurs qui sont présents, qui ont des stands sur tout le week-end. Et donc, le public peut partager avec chaque voyageur. Ils sont accessibles, c'est des gens tout à fait sympathiques, qui ont envie de partager. Et donc, c'est un vrai plaisir. C'est vraiment, ça devient une ouverture. Donc, en plus, on a une librairie qui s'appelle Esprit Nomade, qui vient sur le festival, donc qui est présente aussi, qui permet de faire le lien tout au long de l'année aussi. Donc, il nous faut quand même l'appui de la région et du département pour pouvoir exister. On est vraiment en lien aussi avec la municipalité qui nous aide à porter le projet, qui s'occupe de la communication, qui nous met la salle à disposition gratuitement. Il y a vraiment des choses très intéressantes qui se font. Il y a aussi un film qui est projeté pendant les heures de collège. Et en fait, les enfants du collège viennent voir. Ce qui ressort beaucoup de ces échanges avec les collégiens et les voyageurs, c'est souvent que « Ah, c'est possible. Ah, peut-être que moi, un jour, je pourrais réaliser mon rêve. » Donc, c'est quand on entend ça, même si ça peut créer le déclic que chez un ou deux, tant mieux, c'est toujours ça de gagner. Et c'est là que ça prend du sens et que ça vaut le coup de continuer. Voilà. Je vais arrêter là-dessus. Je crois que ça me semble bien.
Alors, avant de prendre les questions dans la salle, est-ce que vous pourriez préciser, du coup, vous avez dit un petit village, une communauté de 11 communes, mais alors, pour être un peu plus concret, ça représente combien d'habitants
Sur l'ensemble
votre village et le bassin mosellan.
Mosé, c'est 2700 habitants. L'ensemble des communes, on est sur 7000 habitants à peu près. Mais bien entendu, les gens, on donne une grande information sur le, au niveau de, du territoire, mais il est évident que maintenant, il y a pas mal de personnes qui viennent de Niort ou de La Rochelle ou de Surgères ou de Rochefort.
D'accord.
Et ça devient un rendez-vous aussi autour. Parce que c'est vrai qu'on retrouvera les mêmes personnes qu'au Grand Bivouac. Il est évident, on est en lien souvent avec eux pour avoir des renseignements, mais il est évident que ça reste, étant donné nos locaux, ça reste un petit festival convivial, hein, et comme nous disent les voyageurs, rester comme ça, parce qu'après tout, c'est le côté sympa, on n'a pas de prétention, on aurait quand même un peu de difficulté à s'étendre. Hein. Donc c'est plutôt la convivialité, l'abord de personnes d'une manière différente.
Alors du coup, comme je suis modérateur, je me permets de prendre la première question, voilà, de façon un peu égoïste. Puisqu'on est dans la thématique voyage et territoire, je voulais savoir les uns et les autres quel regard vous portiez sur les comités de jumelage qui, à la base, seraient un peu là dans les communes pour donner l'envie d'horizon et d'ailleurs et de rêve.
Pourquoi pas Ça peut sécuriser certaines personnes qui n'osent pas partir. Après tout, on est encadré, donc ça peut aider. Je crois que c'est pas la même chose. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas, dans la même. Ça pourrait. Après tout, on peut toujours s'approprier un événement pour le. Comme on en a envie, mais je crois que c'est pas pareil. Là, on se retrouve des gens qui vont. Qui partent, il y a quand même une volonté personnelle. Il y a quand même c'est une démarche personnelle. Ou quand elle est collective, elle est quand même d'un petit groupe. Maintenant, le comité de jumelage apporte autre chose. Il apporte à connaître l'autre. Hein, il apporte ça.
Alors, pour les communautés de jumelage, justement, quand j'ai voulu amasser l'information pour mon voyage sur les traditions. J'ai tout de suite pensé aux communautés de jumelage parce que je pense qu'ils font partir des gens ou ils font un lien entre deux pays, mais ils sont aussi source d'informations, donc je me suis rapproché d'eux et ça a été très fructifiant pour moi parce que le comité de jumelage franco-roumain de Poitiers m'a mis en relation avec l'ex-président du jumelage. Qui vit actuellement en Roumanie maintenant et qui a créé une agence de voyage alternative dans le nord de la Roumanie qui veut faire découvrir pour des petits groupes, donc généralement des Français, mais pas que, aussi des Allemands et autres, des territoires, on va dire, un peu oubliés où il y a encore de fortes traditions et donc les faire participer à des activités comme l'écriture sur les œufs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est donc oui. Et donc là, cette personne m'a permis d'avoir un nombre d'informations que je n'aurais pu avoir par moi-même puisque je ne lis pas le roumain, malheureusement. Et donc il a pu me donner le programme détaillé des festivités puisque j'y ai été pendant la période de Noël. Qui se déroulait sur place, à la fois dans les Maramureș et les Bucovine, donc les deux régions du Nord. Et j'ai pu voir des choses vraiment fantastiques, même si je n'étais pas accompagnée de lui. C'était un passeur d'informations. Et donc, en ce sens, je pense que les jumelages peuvent jouer un rôle. L'information, elle est là où... On s'attend, voilà, comme disait madame, le jumelage, on s'attend à ce qu'on s'en rapproche pour aller dans la ville jumelée et puis revenir et peut-être y aller l'année suivante ou recevoir après. Mais c'est pas simplement ça. Ceux qui y sont allés ont un autre regard et ont rassemblé de l'information. Quand j'ai donc créé ce voyage, je me suis rendu compte que même des gens que je côtoyais tous les jours connaissaient parfois des gens qui ont pu avoir une mine d'informations pour moi. Il suffit simplement d'une personne parfois pour changer totalement la vision du voyage.
Tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je compléterai juste en montrant une fois plus la chance qu'on a en France d'avoir
Là, je parle un peu comme un vieux, hein, du coup, parce que ça n'existait pas quand il y a 20 ou 30 ans, ou je crois, ou 40 ans. C'est que quand on voit Erasmus, par exemple, mais c'est génial, Erasmus. C'est un truc super de faire pouvoir bouger et transporter des étudiants d'un pays à l'autre, etc. Vous avez maintenant tout ce qui est les services civiques, AFS, vous avez plein de structures en fait, qui existent, qui sont vraiment super en termes de pouvoir, ça complète un peu l'histoire du jumelage. Et c'est quand même des parcours de vie. Moi, je connais beaucoup de jeunes, et je trouve ça super intéressant de voir comment ça change leur vie. Et ça donne vraiment l'opportunité de faire des choses. Et c'est là qu'on mesure pas assez cette chance qu'on a, parce qu'une fois plus, moi, les petits Indonésiens, je connais pas beaucoup qui ont cette chance là, quoi. Je veux dire, et malheureusement, parfois, quand je me retrouvais, quand j'ai géré un master tourisme par exemple, avec des jeunes de 25 ans, je leur dis, ah, vous pouvez aller, je sais pas, à Sumatra, vous pouvez aller en Chine, ça vous intéresse? Ah non, on est très bien ici, quoi. Bon, bah, c'est sûr que c'est un peu compliqué parfois, il y a pas l'envie. Parce que nos structures universitaires traditionnelles ne sont pas toujours à même de faire ce qu'il faut faire. Quoi. Voilà.
Je rebondis juste une seconde sur ce qu'il vient de dire, puisque l'Erasmus, j'ai pu en faire. Et dans le cadre de l'IAE, on peut penser ce qu'on veut de l'IAE, qui forme des futurs managers. Et donc dans la formation, en licence, en dernière année de licence, on est obligé de faire un stage de 12 semaines minimum à l'étranger. Et donc, participer au programme Erasmus. Et j'ai vu avant de partir, bon, moi j'étais déjà parti beaucoup, donc partir une fois de plus, ça ne me dérangeait pas, c'était même plutôt plaisant. Mais beaucoup de jeunes qui n'étaient jamais partis et qui étaient extrêmement réfractaires. Et en revenant, y a une grande différence, vraiment. Il y a des jeunes qui disent que c'était une expérience inoubliable pour eux et qui leur donne envie de continuer. Donc parfois, je trouvais ça intéressant de se dire, au début on se dit, mais pourquoi l'IAE oblige? Pourquoi ça doit être une obligation? Et finalement, après, une fois qu'on a mis le pied dedans, on a envie d'aller plus loin.
Compléter aussi, c'est que aujourd'hui, exactement comme tu le dis, c'est que le voyage, c'est devenu un rite de passage fondamental pour un jeune, un adolescent, y compris déjà des adolescents, donc c'est même pas seulement l'université, mais surtout après, donc il y a tout un... Moi, j'ai beaucoup accompagné des gens qui terminent les Master 2, par exemple. Hein, parce que terminent le Master 2, ils ont le blues, en général, parce que c'est l'entrée dans la vie active ou la thèse, etc. Donc, il y a tout un moment donné où il y a un mal-être, comme ça, qui se met en place. Et j'en ai accompagné beaucoup qui devaient voyager. Donc, je sais pas, faire le tour du monde, faire des trucs délirants, tout ça. Et le but, c'est de les accompagner, en fait, pour faire la transition. Mais aussi, on voit comment, avant cela, il y a... C'est vraiment devenu quelque chose de très important comme rite de passage. Et ça change la vie des jeunes. Et c'est qu'à partir du moment où il y a ce courage initial, je dirais, et ça, c'est super parce que ça crée des vocations. Et une fois plus, c'est une chance. Et je pense qu'il faudrait plus la saisir, quoi. Et moins avoir peur. Malheureusement, on est dans un monde, quand même, on a très peur. On a peur des lendemains, on a peur du sida, on a peur du chômage, on a peur de plein de choses, en fait, aujourd'hui. qu'on n'avait pas il y a 30 ans, enfin je ne veux pas faire, je sais pas, souvenez-vous quoi, on n'avait pas ces angoisses-là. Et Nicolas Bouvier, hein, en 1900, les années 40-50, quand il se baladait, je veux dire, voilà, par exemple, Ouéla Maillard, c'est pareil, quand ils sont allés se balader en Afghanistan, c'était tranquille, hein, tu prends une Ford ou n'importe quoi, une Topolino ou ce que tu veux, et tu peux aller tranquillement en Afghanistan. Aujourd'hui, aller en Afghanistan comme ça, ce n'est pas tellement évident, même si toi tu as réussi à faire pas mal de transports, ce n'est pas évident. Bien sûr. Non, mais je prends juste l'exemple d'un... Aujourd'hui, on va avoir un smartphone, on est connecté tout le temps, ce qui est aussi intéressant, ça mériterait un débat rien que pour ça. Parce que voilà, ça mériterait un débat vraiment rien que pour ça, parce que c'est devenu quelque chose de très intéressant à étudier, à analyser. Mais je veux dire, on n'a jamais autant aussi peu communiqué, finalement, qu'à l'ère de la communication. Et le voyage est très intéressant en termes d'analyse pour ça. C'est que vous avez des gens perpétuellement connectés. Et je donne toujours souvent cet exemple au Vietnam, par exemple, à Hanoï, dans un café. Vous avez les gens, ils mangent un hamburger américain, ils prennent un chocolat chaud, ils sont sur Internet toute la journée et ils envoient des messages en disant c'est super le Vietnam. Et à un moment donné, je lui dis ça fait une semaine que je fais ça. Je lui dis c'est intéressant, c'est bizarre qu'on ne s'imagine pas parler du Vietnam à quelqu'un qui est à Washington ou à Paris et en étant dans une guest house ou dans un café en disant tout le temps voilà comment c'est, alors que les gens ne voient plus rien. Quoi. Et ça devient parfois. Enfin, comme j'analyse, je passe mon temps un peu à regarder ce qui se passe quand ça ne marche pas très bien, ce genre de relation.
Et c'est un peu inquiétant parce qu'il n'y a quasiment plus de relations alors qu'on n'est que dans le relationnel. Donc c'est un peu bizarre, ça devient schizophrène. Et c'est ce qui crée donc aussi des problèmes chez, sur le plan psychanalytique et psychologique, chez beaucoup de jeunes quand ils voyagent. Parce qu'ils sont toujours, ils sont jamais contents, ils sont jamais satisfaits, puisqu'en fait, on jamais plus, jamais plus loin, jamais trop loin, on fait jamais le buzz hein, comme il faut. Enfin, là, je sais pas, en Inde, j'ai jamais vu ça avec ma fille. Je sais pas, à des moments, il a eu 50 selfies par jour, quoi. 50 personnes lui demandent des selfies par jour. Ça devient, c'est de l'agression, ça devient du viol inconscient, quoi. Hein. C'est des choses. Vous avez des gens qui vont vous prendre une tablette ou un smartphone. Vont vous dire, ah, juste regardez, puis en fait, ils vont vous pirater votre smartphone pour mettre une bonne note sur TripAdvisor parce que dans l'endroit où vous êtes. Vous avez des agressions permanentes qui sont liées au numérique aujourd'hui, dans le cadre du voyage. Je ne veux pas entrer là-dedans, maintenant, c'est un autre sujet, mais c'est aussi, ça montre les limites de ce modèle-là. Désolé d'être très critique, hein, d'ailleurs.
On peut également avoir le complètement l'inverse. On a des gens qui veulent partir, même des écrivains qui traversent la France ou une partie de la France sur les chemins, que ce soit à pied ou en vélo, et qui essaient d'être le plus dépouillé possible pour découvrir. Après, ils sont animés d'autres choses. Hein. Ça va être pour certains, ça va être pour, je pense à un invité de l'an passé, c'était les noms. Les noms lui disaient quelque chose. Il avait envie d'aller d'un lieu à un autre, de l'enfer au paradis, par exemple, et il cherchait sur son chemin, Olivier Lemire faisait ça, il cherchait sur son chemin tous les bleds ou les lieux-dits, hein, quelquefois un lieu-dit, qui avait un rapport avec ça. Il avait trouvé la foi, il avait trouvé différents. Et il faisait un commentaire. C'était aussi l'occasion d'écrire en même temps ses pensées tout le long du chemin. C'est intéressant aussi. Absolument, oui. Tout à fait. On n'est pas. Tout à fait. Il n'y a pas les tambours en arrivant au village le soir. C'est vrai.
Ce qui est intéressant peut-être aussi par rapport aux gens qui sont dans le public, c'est qu'il y a des représentants de communes. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une initiative dans votre commune originale, intéressante. Et on peut en avoir d'autres exemples. Et les journées créativité et territoire, c'est fait un peu pour ça. C'est aussi pour que vous puissiez venir piocher des idées.
Alors les journées créativité et territoire sont un peu denses. Et donc je rappelle que la documentation de nos invités, vous pouvez la trouver à l'extérieur, et que si vous manque des informations, le site de l'EMF centralise toutes ces informations. Donc n'oubliez pas, vous pouvez rebondir sur vos pieds si vous n'avez pas pris toutes les notes, c'est pas grave.
Merci pour ces différents témoignages, ça nous a fait pas mal rêver en tout cas, et découvrir d'autres horizons. Moi, une notion qui me tient à cœur, c'est la notion d'hospitalité. Je pense qu'elle est prépondérante dans le voyage. Réagir aussi sur la notion de voyage, je pense qu'on peut voyager à côté aussi et découvrir pas mal de choses, et qu'il ne faut pas l'oublier, cette dimension-là, elle est importante. Et puis surtout dans la perspective de créativité et territoire, c'est de raisonner aussi peut-être, Jackie, c'est peut-être une idée, mais sur territoire de connaissance, territoire pour faire des connaissances, mais territoire pour exprimer des connaissances, route de la connaissance. Alors le concept existe, hein, je l'ai déjà un peu regardé, mais ça permet de mailler et de proposer des voyages peut-être aussi. Et puis, ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire à un moment où effectivement on a plutôt tendance à se replier sur son petit village médiéval.
À propos de connaissances, justement, je vous invite à découvrir ce que fait un lycée de Tours. Et je pense qu'en France, c'est le seul lycée qui fait ça. Et d'ailleurs, je crois que tu y interviens dans 15 jours, 3 semaines. C'est un lycée qui organise le lycée Choiseul. Pour mieux comprendre le monde, vous verrez, le programme est d'une richesse absolument phénoménale. En intervenant.
Oui, créativité et territoire. Effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de difficultés, de barrages et de complexité en ce qui concerne les collectivités territoriales. Bon, et Jackie, vous le savez très bien, moi j'ai passé beaucoup de temps de ma vie en tant que conseiller général, en tant que vice-président chargé de la coopération internationale dans le département de la Vienne. J'ai commencé avec René Monory, avec l'Afrique, avec le Burkina, et ensuite avec 10 coopérations de territoire à territoire, qu'on appelle coopération décentralisée, sur laquelle je suis intervenu ici il y a 2 ans, puisque sur les modes de gouvernance, effectivement, ça nous paraît d'aller regarder ce que certains territoires peuvent faire, en particulier auprès des pouvoirs locaux, hein, ne serait-ce que sur les pouvoirs comment dire, régionaux des Italiens, des Allemands, etc., être comparé avec nos systèmes, notre système parisiano-centriste français. Ça, c'est un point de vue. Et deuxièmement, en ce qui concerne les étudiants, les échanges d'étudiants, on a des barrages très forts quand on est responsable de ces relations internationales avec la presse, avec les médias. Je vais prendre un exemple sur le Canada. On a une coopération avec le Canada, qui est la région de Moncton, le Nouveau-Brunswick. Et on avait, sur une année universitaire, à peu près une trentaine d'étudiants et d'élèves de BTS qui allaient au Canada dans le cadre de leur cursus. Et lorsque vous partez au Canada, parce qu'il faut bien rencontrer les présidents d'université, il faut bien aller travailler avec vos partenaires canadiens, parce que tout ça, ça se fait aussi parce que les collectivités mettent un petit peu d'argent à la poche pour aider les échanges qui sont souvent de la charge à la fois des universités, des facultés, mais également des familles. Vous êtes en permanence attaqué. Vous vous déplacez parce que vous profitez de l'argent public pour des voyages, etc. Et on a une très, très grande difficulté avec les médias, avec la presse, pour organiser tout cela. Vous avez beau expliquer ce que vous faites, que derrière, il y a des échanges, que derrière, il y a de la formation, que derrière, il y a peut-être des métiers qui vont être découverts par des étudiants et peut-être aussi faire installer aussi des gens qui viennent de l'étranger sur vos territoires et qui vous apportent des tas de choses intéressantes. On n'arrive pas à passer le message avec les médias. Et puisque je suis sur le sujet médias, pourquoi ? Parce que vous êtes suspect en permanence d'utiliser de l'argent public pour vous balader. Alors que mon épouse est à côté de moi, elle m'a accompagné quelques fois. Bien sûr, on a payé son billet d'avion. Hein. J'étais souvent parti, elle m'accompagnait. J'étais en plus médecin généraliste, donc vous savez, on est très peu à la maison. Donc, quand vous partez, vous n'avez pas 10 minutes. C'est-à-dire que le soir, c'est le dîner. Vous travaillez jusqu'à 11h minuit. Et le lendemain matin, le premier rendez-vous, il est à 8h. Hein. Donc, 6h30, vous êtes debout. Et c'est, vous partez 3 jours parce que derrière, vous revenez vite fait parce qu'il y a la clientèle qui vous attend, etc. Je peux vous garantir que les 3 jours, vous n'avez pas fait beaucoup de détente, mais vous êtes allé pour travailler, pour rencontrer encore une fois les facultés. Et que la presse n'entend absolument jamais ce discours-là. Un peu quelquefois aidé par certains amis dans certains groupes de la collectivité qui, au cours d'un débat un peu chaud, vous répètent que vous avez eu la chance d'être parti il y a 4 jours et que voilà, donc c'est excessivement difficile. Et puisque je suis sur le sujet des médias, je voulais aussi penser tout à l'heure que lorsque vous interveniez sur l'ethnologie, sur l'histoire des peuples et des territoires, ce qui est intéressant, c'est la translation qui nous amène aujourd'hui sur la gouvernance des territoires, parce qu'on est sans doute héritier de tout ça, et que là aussi, les médias n'en tiennent absolument pas compte. Je pense qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises par la Chine relèvent d'une histoire qui est très longue, qui est très ancienne, qui est marquée par la philosophie. Et je pense aussi que les Hongrois, lorsqu'ils prennent des décisions, ils sont marqués aussi par un peuple qui a été envahi par les Turcs, les Allemands, etc., et que les Autrichiens, et que tout ça aujourd'hui se mêle dans des décisions qui sont des décisions politiques, mais qui s'en réfèrent certainement à l'histoire des peuples. Et tout ça, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement intéressant et qui devrait être analysé sans doute aujourd'hui plus qu'il ne l'est.
C'était pour la commune de Mosée. Enfin pour le... Juste une question. Comme vous avez fait ça depuis 20 ans, est-ce qu'il y a eu l'émergence de jeunes qui ont voulu créer l'aventure dans votre territoire, enfin, c'est-à-dire que ça a créé des idées d'aventure pour les jeunes ou moins jeunes. Parce que... Et deuxième question, c'est est-ce que vous n'avez pas pensé aussi que ce super festival, en fait, montrait aussi, l'idée, c'est de dire un travail d'intégration pour dire qu'un territoire peut, à travers le festival et après, créer de la valeur intellectuelle. Donc, être créateur de valeur, et ce qui est important, parce qu'à ce moment-là, on change la donne au niveau de la création de valeur.
Vous répondez là-dessus ? Ou vous répondez sur cet aspect ?
Non, je suis...
Vous êtes d'accord ?
Oui, je suis d'accord avec monsieur, c'est évident, et Il nous a été reproché au départ, lorsqu'on parlait d'aventure, c'était associé, même par nos partenaires départementaux, régionaux, c'était associé à sport. Aventure, c'était obligatoirement des épreuves sportives. Nous ne sommes pas sur le livre des festivals, parce que c'était difficile. On a montré qu'il y avait... Tous les aventuriers n'écrivent pas des bons bouquins. C'est une série de livres qu'on aurait du mal à lire. Enfin, il y en a qui... Des écrivains aventuriers, hein, des écrivains voyageurs. Il y en a eu, il y en a encore. Et c'est vrai que c'est important. Il y a des films qui sont des films en eux-mêmes, qui sont de beaux films, qui apporte une certaine forme de culture. Après, on les livre autour et ça donne aux gens, ça donne à discuter. Hein, on est un peu des passeurs à ce niveau-là. Et ça donne à discuter autour de tous ces thèmes. Oui, je crois qu'on a dépassé le stade du sport. Il peut y avoir des activités sportives, il peut y avoir des gens, mais ça fait partie de l'aventure. C'est pas que ça. Et ça, je crois que ça, c'est important pour le développement intellectuel du territoire, de dépasser aussi notre stade, de notre René Caillé, pour arriver, tout en maintenant quand même ce lien, d'arriver à connaître autre chose.
Ok, merci. Merci à Florent aussi. Voilà.
Parce qu'il faut dépasser ses propres limites, ses propres frontières, vous voyez, hein, on a l'impression que c'est facile comme ça. moi, j'ai l'impression que ça fait 200 ans que je suis partie.
Moi aussi. D'ailleurs, si quelqu'un l'a vu.
Non, parce qu'on a entendu qu'il y avait quelqu'un qui était parti il y a 200 ans en Afrique. Mais est-ce qu'il est revenu? Mais où est-il?
Je crois qu'on va aller le chercher, non?
On va le chercher dans Poitiers, non?
On va aller chercher, mais avant.
Petite dernière.
Vas-y, vas-y.
Alors,
Diwo.
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 Voilà.
Allez, bottom up, bottom up.
Si vous voulez des renseignements sur la compagnie Forcenet, vous avez ça sur la table.
On a aussi mis un livre d'or sur la table, là. Si vous voulez nous laisser des petits mots et vos coordonnées, voilà. Des gros mots, des lignes en gros, des... Voilà. Ça vous ferait plaisir, quoi.
Merci. Donc, rendez-vous à 18h avec Glenn Horn pour une randonnée philosophique dans Poitiers, donc devant à la cafétéria à 18h. Ah non, pas 4h, non, je te rassure.